Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillé. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Des millions de curieux, les yeux rivés vers le ciel pour profiter de ce phénomène rarissime. L'éclipse solaire, elle était presque totale à Biarritz. RMC sur place pour assister au spectacle. Les plages du Pas-de-Calais en proie aux flammes, incendies également en Bretagne. Mais y aura-t-il assez de pompiers aujourd'hui pour les éteindre? Ils sont appelés à la grève pour dénoncer leur manque de moyens. Et puis le placard à trophées du Paris Saint-Germain, ça grandi. Ils conservent leur titre en Supercoupe d'Europe. Victoire 2-1 contre Aston Villa.
Clara, je sais que tu avais tes lunettes sur les yeux hier soir. Quelques minutes d'un spectacle époustouflant. La nuit est tombée en plein jour sur une partie de l'Europe.
Et il ne fallait pas la rater. La prochaine éclipse solaire totale n'étant que dans 55 ans. Des millions de personnes partout en Europe ont donc mis leurs lunettes spéciales, y compris moi, pour voir la Lune engloutir le Soleil. C'est en Espagne que le spectacle était le plus intense. En France, éclipse partielle, mais presque donc totale à Biarritz. 99,5% d'obscuration. Des centaines de curieux ont vécu ce moment en communion, Alexandre Thibault.
Au moment de l'obscurité quasi totale, toute la pelouse applaudit, lunettes sur les yeux, tournées vers l'éclipse.
C'est incroyable, hein ? C'est magnifique.
Un verre à la main, Théo le contemple avec sa compagne.
On sent bien que tous les gens sont en osmose, tout était assombri d'un coup et les gens se regardaient les uns les autres. Personne ne comprenait rien, quoi. C'était fou.
La luminosité baisse, la température aussi, un ciel orangé apparaît, moment que Nicolas veut partager en famille.
Un moment unique, mon fils la reverra sûrement et probablement que je le reverrai jamais. Un petit coup à boire et puis un moment où les enfants sont autour de nous en train de jouer, échanger et à vivre simplement.
Un instant qui dure plus longtemps qu'une éclipse pour certains.
Nous nous sommes rencontrés le jour de l'éclipse, le 11 août 1999.
Philippe et Isabelle savourent le moment, la tête de l'un posée sur l'épaule de l'autre.
Ah, mais en fait, c'est un côté magique, comme si les planètes étaient alignées.
Nous, notre vie, déjà, s'est passée entre deux éclipses. Et maintenant, ça va être de la lumière tout le temps. Et on est reparti pour 27 ans de bonheur.
Après cette parenthèse de quelques minutes, certains sont restés pour observer la nuit des étoiles.
Alexandre Thibault au Pays Basque pour RMC. Des énormes panaches de fumée au-dessus des dunes de la Côte d'Opale. Le Pas-de-Calais, à son tour victime des incendies. 180 hectares brûlés près d'Ardelot où l'incendie n'est pas fixé. Il est contenu au niveau de la commune de Danne. 1200 vacanciers ont pu regagner leur camping hier soir après avoir dû évacuer. Dans les Deux-Sèvres, près de Poitiers, 3 morts dans l'incendie d'une maison après un feu de végétation parti d'un champ voisin. Ça s'est passé hier après-midi dans le village de Loumois, où s'est rendu Antonin Audion pour RMC.
Plusieurs départs de feu le long d'une route communale et un bocage qui s'embrase, aidé par le vent et la sécheresse. Bernard Merlet habite quelques centaines de mètres en contrebas.
Ma femme me dit tout de suite, prends la voiture, faut qu'on sorte, on risque d'être bloqué. Donc on est sorti, c'est là qu'on a vu totalement brûler.
C'est sa deuxième maison qu'il a vue complètement brûlée, celle qu'il loue à un couple de quadragénaires et à leur fils d'une vingtaine d'années. 3 corps retrouvés dans la maison pourraient correspondre à la famille.
Nous sommes nos locataires depuis 3 ans, 3 personnes qu'on aimait bien. On était des amis, on avait sympathisé. Non, il n'y a pas de mots. C'est trop terrible.
Dès le départ du feu, des agriculteurs sont venus en renfort des sapeurs-pompiers. Jean-Michel est l'un d'eux. Il a le visage fatigué par la nuit qu'il vient de passer à lutter contre les flammes.
Quand je suis arrivé, il y avait une prairie qui était en feu, des haies énormément, un coteau pratiquement inaccessible avec du matériel qu'on a réussi à bloquer quand même. C'était déjà pas dans les maisons, mais très 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 proche des maisons. Et le feu est venu à une vitesse phénoménale. On parle toujours d'un cheval au galop, mais là, je pense que le cheval était vraiment au galop très très fort.
Pour déterminer l'origine du feu, une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Niort.
Et un autre incendie au sud de Rennes, en Bretagne, cette fois feu de forêt au niveau de Saint-Just, qui a parcouru 200 hectares, une centaine de personnes évacuées.
Clara, y aura-t-il des pompiers justement pour venir à bout de ces incendies aujourd'hui? La réponse est oui, ils restent mobilisés, mais ils sont tout de même appelés à la grève.
Appel de 9 syndicats en plein été, et alors que la France n'a jamais autant brûlé, pour alerter sur leurs conditions de travail. Les syndicats seront reçus à midi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ils veulent tout simplement plus de moyens, Marion Gauthier.
Oui, du matériel, notamment des camions-citernes. On en a perdu plus de 1000 en 20 ans, souligne le syndicat Sud, qui insiste ces dernières semaines. Sans les agriculteurs pour nous amener de l'eau, on était foutus. Mais il faut des hommes dans les machines. Le constat est intersyndical. On arrive à la rupture financière, ça bloque les recrutements. Certains parlent même d'un numerus clausus. De milliers de candidats pompiers formés, lauréats d'un concours, pas embauchés, manque d'argent des départements. Il faudrait qu'on soit 10 000 de plus, jauge un syndicaliste. Mais les professionnels, ça coûte plus cher que les volontaires, grince un autre. quand la CFTC pointe plutôt un manque d'organisation. Fin juillet, sur nos 12 canadairs, 5 sont en maintenance, insurge un pompier avant de détailler la lenteur des décisions. Un formulaire en ligne, 3 échelons de validation pour un envoi d'hélicoptère qui arrive parfois trop tard.
Et notez qu'à 8h45 sur RMC, RMC Story, le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours des sapeurs-pompiers, sera avec nous, sera notre invité en direct. Il nous expliquera les raisons de cette colère.
Dans le même temps, la chaleur s'intensifie. Vigilance orange canicule dans 80 départements. Aujourd'hui et demain, les deux jours les plus chauds de cette vague de chaleur qui s'annonce particulièrement insupportable dans les transports en commun et dans les bus où le thermomètre dépasse souvent les 40 degrés, faute de climatisation. C'est le cas à Paris notamment, condition dénoncée par les syndicats et que vous avez vous-même constaté, même enduré, Célestin Bougère.
Je monte dans le bus 180, direction Charenton. Il fait déjà 35 degrés à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est encore pire.
Si à l'extérieur, il fait 35, donc à l'intérieur, on doit avoisiner les 40-45 degrés.
Derrière le volant, Bruno sue à grosses gouttes. Le soleil tape sur son tableau de bord.
Quand on roule, sous des chaleurs pareilles, c'est intenable. J'ai la cinquantaine et j'accuse de la fatigue. S'il y a un peu de fatigue, il peut aussi avoir un peu de manque de concentration sur la conduite.
Ça peut même devenir dangereux.
On peut représenter un danger pour les passagers.
Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
On a des serviettes rafraîchissantes. On a des gourdes d'eau, mais moi, c'est mon avis personnel, c'est de mettre la climatisation dans les bus.
À l'arrière, je m'installe à côté de Fatima, une retraitée. On voit justement essayer de faire de l'air.
Oui, pour moi et pour mon petit chien.
Il est le pauvre. Moi, je suis âgée, bien sûr, c'est dangereux.
Derrière nous, Marie, une étudiante en médecine, a sorti son petit ventilateur portatif.
Ah bah, il vient de tomber en panne.
Quand c'est bondé, quand il n'y a pas la clim, c'est vraiment insupportable.
En arrivant au terminus, Bruno, le conducteur, se précipite dans la salle de repos.
Je suis obligé d'aller boire minimum 2 ou 3 verres d'eau.
Les chauffeurs réclament également la fin des 6 jours de travail de suite pendant ces périodes de canicule. Île-de-France Mobilité assure que tous les bus seront équipés en climatisation d'ici 2030.
Un adolescent de 17 ans mort à Marseille, potentiellement victime du protoxyde d'azote, un gaz régulièrement consommé à des fins récréatives. Lou Garnier, une autopsie a été ordonnée.
Oui, il a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire chez lui à la Castellane, une cité située dans les quartiers nord de Marseille. À la fin du week-end, il avait été pris en charge aux urgences après avoir consommé une quantité importante de protoxyde d'azote, gaz parfois utilisé comme drogue euphorisante avec de graves conséquences pour la santé. L'adolescent est sorti de l'hôpital lundi. Il semblait aller bien, rapporte une source policière. Quelques heures plus tard, le jeune homme de 17 ans décède. Pour le moment, il n'y a pas de corrélation définitive entre sa consommation de gaz hilarant et son décès, selon les autorités. Une autopsie a été demandée et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort, précise le parquet de Marseille.
Et à 7h40 sur RMC, RMC Story, Vincent Ledoux, député du Nord qui se bat contre le fléau du protoxyde d'azote, sera avec nous.
C'est une information RMC, qu'RMC vous révélait dès hier. Un détenu de 26 ans en garde à vue, extrait de sa cellule dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel du quartier des Moulins à Nice. C'était il y a 2 ans, incendie qui avait fait 7 morts. Il est soupçonné de l'avoir organisé.
Le sport, Clara, et en football, déjà un trophée pour le PSG.
Un premier match de la saison et premier titre pour Paris qui remporte la Super Coupe d'Europe. Victoire 2-1 contre Aston Villa grâce au but de Kvaratskhelia et de Doué. Le PSG conserve donc son titre. Arthur Perrault, malgré un été un peu raccourci.
Oui, malgré une préparation très courte avec seulement 2 entraînements pour certains joueurs cadres, Paris brille de nouveau. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, savoure ce succès.
C'est quelque chose de magnifique et la mentalité culture gagnée. Chaque match, chaque jour, on traînait le maximum. Je sais, les joueurs étaient morts. On n'a pas fait beaucoup de préparation. Honnêtement, là, c'est un match parfait pour nous, avec la condition qu'on a.
En remportant cette Super Coupe d'Europe, le PSG poursuit son incroyable série de titres, 10 depuis l'été 2024. Pas de quoi rassasier le capitaine Marquinhos.
La confirmation, ça doit venir sur le terrain, pas avec les paroles, pas avec les choses à l'extérieur. Il faut qu'on montre à chaque fois qu'on continue à avoir des ambitions chaque fois plus grandes et de rentrer de plus en plus dans l'histoire de foot et de ce club. Si on veut continuer à marquer l'histoire, il faut continuer à gagner. Et c'est comme ça qu'on va y aller vers l'avant. Pour essayer de gagner encore des très belles choses.
Et Paris pense déjà au suivant. Rendez-vous dimanche à Lens pour tenter de soulever le trophée des champions.
puis en football, tiens, Messi va-t-il raccrocher les crampons? La question se pose car l'Argentin explique dans un message sur ses réseaux sociaux ne pas être certain de continuer encore longtemps, dit-il après le décès de son père, décédé le week-end dernier à 68 ans. Il était aussi son agent. Et puis deux nouvelles médailles pour la France au championnat d'Europe d'athlétisme. De l'argent sur le 400 mètres pour Mohamed Abdallah Kunta et de l'argent également sur le 110 mètres haies pour Juste Kouaou Maté. Aujourd'hui, finale du saut à la perche chez les femmes. Ce sera évidemment à vivre sur RMC.
Merci beaucoup, Clara. Le prochain journal, ce sera à 7h30. Allez, on va au 32-16. Julien est avec nous. Bonjour, Julien.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Julien. On est à Montpellier dans l'Hérault.
C'est ça, exactement. Ouais.
Vous faites quoi dans la vie, Julien?
Moi, je suis infirmier, toujours.
Toujours infirmier, oui, parce que vous êtes un fidèle d'RMC, c'est pas la première fois qu'on vous a à l'antenne. Et vous voulez nous parler des sapeurs-pompiers, de leur grève nationale aujourd'hui? Ouais.
Alors, tout crame, et ils ont la bonne idée, enfin les syndicats, hein, moi je mets pas tous les poussés dans le même sac, et ils ont la bonne idée de faire grève aujourd'hui. C'est un peu comme la SNCF qui fait grève pendant les grands départs en vacances. Ouais.
Julien, je précise tout de suite, c'est une grève qui est symbolique. Ils sont appelés à la grève, oui, mais évidemment, les sapeurs-pompiers seront sur le terrain encore une fois aujourd'hui.
Heureusement, mais comme nous dans le médical, nous on peut pas s'arrêter. Les pompiers, c'est pareil. Mais quand même, faire grève au moment où c'est la merde, c'est quand même pas, franchement, les syndicats, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, quoi.
Bon, Julien, est-ce que vous comprenez toutefois leur colère?
Ah oui, leur colère, je la comprends. Le problème, c'est que ça fait des années que ça traîne. C'est comme le médical, c'est comme la police, c'est comme pas mal de secteurs en France. Mais les syndicats, ils sont dans toutes les négociations. Il faut qu'ils arrêtent de nous faire croire qu'ils découvrent le problème.
Bah, tout à l'heure,
ils ont validé toutes les conneries qui sont faites depuis des années. Hein.
J'espère, sauf si vous partez travailler, mais j'espère que vous serez encore avec nous tout à l'heure aux alentours de 8h45. Nous aurons l'un des représentants de ces syndicats de sapeurs-pompiers qui sera avec nous en direct, qui explique malgré tout, il y a quelques jours, j'avais comme invité le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur sur ce sujet notamment. Je lui ai posé une question, il nous a dit clairement tout va bien, nous n'avons jamais, enfin tout va bien, en tout cas il nous dit que le gouvernement n'a jamais donné autant de moyens aux sapeurs-pompiers, que la sécurité civile est particulièrement bien équipée en France. Vous pouvez comprendre que lorsque sur le terrain, nous avons des témoignages également au 32-16 sur RMC, RMC Story, de sapeurs-pompiers qui nous expliquent par exemple qu'ils n'ont pas de carte d'orientation papier, que dans les camions, tous les camions d'intervention ne sont pas équipés de GPS, qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. Vous pouvez comprendre
non, mais ça,
que...
Moi, Rémi, je comprends tout à fait, ouais, que vous avez besoin de matériel et tout. Mais le problème, c'est qu'on a 3500 milliards d'euros de dette, qu'on ne sait pas comment on va financer tout ce qu'il faut rénover et renouveler, et que si on demande aux Français de payer plus d'impôts, ils diront non, malgré que derrière, tout le monde soutient les pompiers.
Oui, c'est vrai.
Donc on est pris dans une espèce de maelstrom où c'est le serpent qui se mord la queue.
Merci Julien d'avoir été avec nous. Belle journée à l'écoute d'RMC et d'RMC Story. Julien qui nous appelait depuis Montpellier dans l'Hérault. Allez, dans un instant, des greens éventrés à coups de bêche, des tags d'insultes. Voilà ce qu'a découvert au matin du 30 juillet un abonné du golf de Tremblay-sur-Moldre dans les Yvelines. Des dégradations revendiquées par l'ultra-gauche. Des golfs pris pour cible en pleine sécheresse record. Que ces militants aient le courage de venir dialoguer au lieu de saccager. Voilà ce que dit Emmanuel Bachot, c'est le directeur du golf de Tremblay-sur-Moldre. Et il sera avec nous dans un instant sur RMC et sur RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
Trois greens saccagés à coups de bêche. Le gazon soulevé sur 15 à 20 cm. Des inscriptions à la bombe. Bourgeois de merde. Sport de luxe avec des logos anarchistes. Voilà ce qu'ont découvert les responsables et adeptes du golf de Tremblay-sur-le-Mauldre dans les Yvelines au matin du 30 juillet. Une action revendiquée par l'ultra-gauche en pleine sécheresse record. Et alors que les golfs sont montrés du doigt, pointés du doigt pour leur consommation excessive d'eau. Bonjour Emmanuel Bachot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RMC, RMC Story ce matin. Vous êtes le directeur du golf de Tremblay-sur-Moldre. Et vous dites qu'ils aient le courage de venir dialoguer plutôt que de saccager. C'est votre parti pris ce matin. D'abord, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez découvert exactement le matin du 30 juillet?
Alors écoutez, le matin du 30 juillet, en général, je fais le tour un petit peu du parcours tous les matins. Ce matin-là, je l'ai pas fait, donc c'est un joueur, un abonné du golf, un joueur régulier qui m'appelle vers 9h15 pour me signaler le vandalisme qui a été fait donc sur trois greens qui se situent sur les hauteurs du golfe, donc je dirais des greens qui ne sont absolument pas visibles de l'extérieur, ni du clubhouse, ni de maisons extérieures. Donc j'ai été immédiatement sur place voir ce qui s'est passé. Effectivement, je découvre trois greens qui ont été pêchés à plusieurs endroits, complètement massacrés, on va dire, et qui sur lesquels ont été annotés des choses à la bombe. Ce que vous avez mis en avant au début.
Ouais, des méchasses d'insultes, vindicatifs voilà. À l'égard de ce sport de riche, etc. Voilà. C'est la première fois que ça vous arrive?
Alors, écoutez, oui, c'est la première fois à ce niveau-là. Il y a déjà eu des intrusions avec des choses qui ont été faites un peu sur le golfe, mais qui n'entraînaient pas de gros problèmes. Mais ce phénomène est déjà arrivé, je crois, l'an dernier ou il y a deux ans sur différents golfs.
Sur plusieurs autres golfs. Ouais. Ça représente un préjudice de combien vous avez pu l'estimer?
Alors écoutez, il y a plusieurs façons de voir. Moi, j'ai dû remettre tout en état. C'était un jeu de puzzle et ensuite des complications. Enfin, c'est pas évident de remettre tout en place. Mais pour que les joueurs puissent rejouer très rapidement, c'est un jeu de puzzle pour remettre toutes les escalopes de gazon de green. Voilà, pour que ça se remette en état immédiatement. Mais si on doit remettre les choses parfaitement en place, il faut estimer environ 20 000 euros par green, soit 60 000 euros pour trois greens.
Sur les inscriptions, je le répète, ce qui était inscrit notamment, bourgeois de merde, sport de luxe. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont écrit ça?
Alors, ici, il y a un sentiment de révolte, effectivement, au début, d'écœurement, parce que les golfs sont actuellement, et depuis quelques temps, relativement durs à faire tourner. Donc c'est un travail important pour maintenir à niveau, pour que les gens puissent venir pratiquer leur sport. Donc ce sentiment de révolte, genre on a envie effectivement de pouvoir échanger avec les gens. Maintenant, les gens qui revendiquent ça, chacun voit ce qu'il en est. En fait, ça concerne l'extrême gauche, ça concerne les anarchistes.
Parce que votre sport s'est démocratisé quand même depuis quelques années.
Oui, absolument. Le sport s'est démocratisé. Les gens pensent que le golf est un sport de luxe ou un sport de riche. Enfin, on donne l'appellation qu'on veut, mais c'est de plus en plus faux. Ça l'a été à son tout début. Maintenant, on n'est plus dans ce cadre-là. Nous, on est un golf familial avec des tarifs hyper raisonnables et qui est moins cher. Les tarifs sont moins chers que certains autres sports.
Il y a une question qui se pose quand même par rapport au golf. Vous le savez, c'est en pleine période de sécheresse que l'on vit actuellement. Elle se multiplie, ces périodes de sécheresse. C'est la consommation en eau que représente un golf. Ça, est-ce que vous l'entendez? Je rappelle, c'est pour l'ensemble des golfs en France, c'est 29 millions de mètres cubes par an qui sont utilisés d'eau. Ça représente la consommation d'une ville de 450 000 habitants.
Oui, alors oui, je suis d'accord. Maintenant, le golf est un sport. Les terrains de golf ne peuvent pas vivre sans avoir de l'eau, sans qu'il y ait de l'arrosage, ce qu'on appelle l'irrigation. C'est impossible, malgré tout. Depuis des années, cette notion de sécheresse et du respect de la consommation de l'eau est nettement pris en charge par tous les directeurs de golf, par la Fédération française de golf.
Vous avez des contraintes?
Alors bien sûr qu'il y a des contraintes. On a des arrêtés préfectoraux réguliers depuis 2-3 ans qui interdisent certaines consommations d'eau. Et on va vers des minimums d'eau. Actuellement, pour vous donner une idée, il y a plusieurs niveaux d'alerte, dont le plus élevé qui est le niveau de crise. Mmh. Et sur ces papiers fixés, envoyés par la préfecture, c'est le risque qu'on puisse ne plus avoir, même pour certaines villes ou certains villages, peu importe, de l'eau potable. Donc ce niveau de crise est situé, donne une consommation maximum de 350 mètres cubes d'eau par tranche de 9 trous, puisqu'il est
dit. Ouais, d'accord. Donc, en tout cas, vous avez des restrictions, voilà. Vous aussi.
Ah, bien sûr, il y a des restrictions.
Et vous adaptez? Vous tentez de vous adapter, j'imagine.
Ah, on s'adapte complètement, hein. J'ai une référence hier où je suis, moi, pour ma part, même si on n'est pas en vigilance crise actuelle, sur 210 mètres cubes d'eau. Donc, en fait, les rapports peuvent paraître très élevés pour les gens. Si on veut donner un exemple, on dit qu'en moyenne, une personne utilise 55 mètres cubes d'eau à l'année. Mmh. Voilà. Voilà. Donc ça peut paraître élevé, mais la filière golf maintenant gère. Énormément. Bah,
c'est pas l'image que l'on donne parfois et que vous avez reçue là de manière totalement violente ces derniers jours, lorsqu'on dit que c'est un sport de riche et que c'est un sport complètement déraisonnable. Merci beaucoup, Emmanuel Bachot, d'avoir été avec nous, directeur du golf de Tremblay sur Mauldre, dans les Yvelines. Une dernière question, vous allez porter plainte ?
La plainte a été portée le jour même, bien évidemment. D'accord. Puis on espère que, bah, voilà, on retrouve un peu les responsables. Mais ouais. On y croit moyennement, mais bon. J'espère qu'ils auront le temps.
Voilà. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RMC et RMC Story. Bonne journée à vous. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien, d'Apolline Matin, avec un monument de la littérature au programme ce matin, Le Petit Prince de Saint-Ex. Mais juste avant, ce sera le chiffre du jour. Il y a Le Petit Prince et il y a le roi de l'écho, c'est Pierre Rondeau. Il y a une nouvelle prime à l'achat d'une voiture électrique d'occasion.
Oui, alors, enfin, si vous misez sur cette prime, même d'occasion, vous repartirez au maximum avec un rétroviseur.
Vous allez nous expliquer ça tout de suite, Pierre Rondeau. C'est dans un instant sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite, l'écho, le chiffre du jour.
RMC,
le chiffre du jour.
Ouais, Pierre Rondeau, 337 euros, c'est le montant d'une nouvelle prime pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion, prime qui devrait apparaître dès septembre.
Oui, l'État accélère son plan d'électrification et annonce une nouvelle prime spécifique à l'achat d'une voiture électrique, hein, vous l'avez dit Rémi, d'occasion. 337 euros donc, à travers une prime CE ou certificat d'économie d'énergie. Pour y avoir droit, il faut remplir plusieurs conditions. Donc, acheter un véhicule 100% électrique, hein, c'est pas de l'hybride. Ayant encore une batterie en bon état chez un professionnel de l'automobile qui a connu une première immatriculation en France entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023. De même, il y aura l'obligation de conserver ce véhicule pendant au moins 3 ans. La prime, donc 337 euros, sera versée à partir du 1er septembre 2026.
Ouais, enfin, 337 euros, c'est quand même pas énorme. Il n'y a rien en plus pour soutenir l'achat de véhicules électriques.
Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup, 337 euros, et ça concerne l'ensemble des ménages. Mais l'arrêté annoncé hier va plus loin. Il intègre aussi, dès septembre jusqu'à la fin de l'année, des coefficients multiplicateurs très spécifiques pour les professionnels de l'aide à domicile et du service à la personne. Spécifiquement pour ces personnes concernées, la prime pourra passer de 2000 à 2360 euros au maximum, à la seule condition d'acheter une voiture électrique d'occasion d'une valeur inférieure à 25 000 euros.
Bon, en tout cas, ce sont de nouvelles opportunités pour soutenir le marché de l'occasion, plutôt en difficulté le marché d'occasion de la voiture électrique.
De la voiture électrique, d'occasion. Et effectivement, le marché de seconde main des véhicules électriques n'a jamais été très développé. Il ne représente que 3% des ventes, avec 180 000 véhicules électriques revendus en 2025 sur les 5,2 millions de modèles remis sur le marché. Alors pourquoi ? Plusieurs explications. Déjà, la batterie de la voiture électrique se dégrade assez rapidement et son remplacement coûte cher, parfois plus de 15 000 euros. La technologie évolue très vite et assez rapidement. Un véhicule de plus de 3 ans peut totalement être dépassé. Et l'importante offre en leasing pour les voitures électriques désincite les futurs acheteurs à se tourner vers l'occasion. Enfin, le gouvernement n'a pas vraiment aidé puisqu'il a supprimé le bonus écologique d'occasion de 1 000 euros et la prime à la conversion en 2024. Donc on espère qu'avec ces nouvelles primes de 337 euros et jusqu'à 2360 euros, le marché de l'occasion électrique pourrait se relancer.
Merci Pierre. Pierre Rondeau, on se retrouve après le journal de 8h. Les jeunes galèrent sur le marché du travail. Pierre, ça c'est pas nouveau, mais désormais ils ont un nouveau concurrent, l'intelligence artificielle, l'IA. Tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, et on va relire ensemble Le Petit Prince.
Cette semaine, Le Petit Prince, le livre le plus lu de la langue française, fête ses 80 ans, les 80 ans de sa première publication en France. C'était donc en 1946. Pour vous, Le Petit Prince, c'est le plus grand succès de la France à l'étranger depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, que des records. Le Petit Prince est le deuxième best-seller du monde après la Bible. Il est traduit dans 659 langues et dialectes. Plus de 300 millions d'exemplaires écoulés depuis sa parution. Aujourd'hui, on en vend encore 5 millions par an à travers le monde. Ces chiffres sont sans équivalent. Le Petit Prince est un ovni littéraire.
Alors, parlez-nous de son auteur.
Alors, le père du Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry, qui est donc français. Il est né en 1900 et sa première passion, c'était l'aviation. Il devient donc pilote très jeune et il va travailler pour l'Aéropostale. Alors, l'Aéropostale, c'était une compagnie aérienne qui transportait le courrier d'un pays à l'autre. Hein. La Poste, mais dans les airs, si vous voulez. Afrique, Asie, Amérique du Sud, Saint-Exupéry va sillonner le globe aux manettes de son avion. Ce qu'il adorait, c'était la vitesse, l'aventure, les défis.
Quand est-ce qu'il a écrit Le Petit Prince ?
Alors, il faut d'abord savoir que Saint-Exupéry, en plus d'avoir piloté des avions, avait déjà écrit des livres, hein, surtout inspirés par ses passions, les voyages, l'aviation. Alors, on peut citer Terre des Hommes ou Vol de Nuit, des monuments de la littérature. Et au début de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il quitte la France parce qu'elle est occupée par les nazis et il se réfugie à New York. C'est là-bas qu'il écrit Le Petit Prince, un conte philosophique sur l'amitié improbable entre un enfant qui vient d'une autre planète et qui est donc habillé en petit prince, d'où le titre, et un aviateur qui vient de se cracher.
Le Petit Prince va d'abord être publié aux États-Unis.
Exactement, à New York en 1943, dans une édition à la fois anglaise et française. Et il faut attendre la fin de la guerre et le départ des Allemands pour qu'on publie le livre à Paris. Ça sera chose faite donc le 6 avril 1946 aux éditions Gallimard. C'est cet anniversaire qu'on fête cette année, les 80 ans.
Une publication française que l'auteur ne verra jamais.
Non, ça c'est l'histoire d'un drame, Apolline, puisque dès 1943, Antoine de Saint-Exupéry avait rallié les forces françaises libres, donc la résistance contre les Allemands. Et en 1944, alors qu'il vole au large de Marseille, son avion disparaît des radars. On ne le reverra plus jamais. Donc 2 ans avant la publication en France du Petit Prince, Saint-Exupéry meurt. Et il faut attendre les années 2000 pour qu'on retrouve l'épave de l'avion. Alors l'hypothèse la plus probable, c'est que Saint-Exupéry ait été abattu par un avion allemand, mort au combat et pour la France, comme quoi la France a elle aussi des aviateurs héroïques.
Magnifique, magnifique livre.
Arthur Chevalier a retrouvé en podcast sur l'appli RMC. Allez, dans un instant, le journal de 7h30 et les prévisions météo. À tout de suite, bon réveil sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Le Pas-de-Calais frappé à son tour par des incendies. Un camping évacué, près de 200 hectares brûlés sur la côte d'Opale. Cette info, RMC, révélée hier, un homme de 26 ans en garde à vue soupçonné d'être le commanditaire de l'incendie criminel des Moulins à Nice en 2024. Et après sa grave blessure il y a 2 ans, la Française Margot Chevrier se hisse en finale du saut à la perche au championnat d'Europe d'athlétisme. Et c'est à suivre aujourd'hui sur RMC.
Le Pas-de-Calais brûle.
Comme quoi, vraiment aucun département n'est épargné par les incendies cet été. 180 hectares ont été parcourus hier sur le littoral et 1200 personnes évacuées d'un camping. De quoi surprendre ces vacanciers, Caroline Renaud.
Sa caravane à peine installée, les vacances ont démarré par une grosse frayeur pour Aurélia.
Il y avait une forte odeur de cramé, énormément de fumée, les cendres tombaient au niveau de notre campement. On se dit, ça tombe, c'est peut-être pas une cendre, ça peut être une braise.
De quoi faire paniquer ses enfants.
La plus grande commençait à pleurer, maman j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer. On avait peur que du coup ça se rapproche de plus en plus de nous en fait.
Alors elle n'a pas attendu l'ordre d'évacuation pour plier bagages, comme Jérôme, dès les premières fumées.
J'ai attelé ma caravane et puis on est parti quoi.
Parti en urgence d'une région qu'il pensait pourtant épargnée par les incendies.
J'aurais pas cru que ça serait arrivé là-bas, quoi. Dans le Nord, pour moi, j'ai jamais connu ça. C'est à côté du Touquet, on dit qu'il n'y a pas de risque, quoi.
Même étonnement pour Coralie, venue passer 2 jours à la mer.
On entend ça aux infos et c'est plus, tout ce qui est en Gironde, etc. Enfin, on se dit la mer du Nord, normalement, c'est pas la région là où il y a le plus de sécheresse et où il fait le plus chaud, quoi.
Tente démontée cette nuit, elle ne finira pas son séjour au camping malgré la levée de l'évacuation. Mes enfants ne serait pas serein, dit-elle.
Et ça brûle également en Ille-et-Vilaine, près de Rennes, plus de 200 hectares, une centaine de personnes évacuées alors que les départs de feu se multiplient. Les pompiers restent à la caserne. Aujourd'hui, une grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Une réunion est prévue ce midi avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Des records de chaleur attendus aujourd'hui en France. La quasi-totalité du territoire en vigilance orange canicule, de la Bretagne à la Corse, en passant par la Seine-Maritime et les Landes.
L'affaire des moulins à Nice connaît une nouvelle avancée.
C'est une info que RMC vous révélait hier, 2 ans après le drame qui avait coûté la vie à 7 personnes, dont 4 enfants. Un homme de 26 ans, soupçonné d'avoir commandité l'incendie criminel, a été placé en garde à vue, Pierre Bazin.
Oui, c'est notamment grâce à l'exploitation de conversations Snapchat que les enquêteurs ont pu identifier celui qu'ils soupçonnent d'être l'organisateur du commando. Selon les policiers, cet homme de 26 ans aurait recruté au moins 3 membres de l'équipe au cœur du projet criminel, incendié la porte d'un narcotrafiquant local. Mais cette nuit-là, ce sont des victimes collatérales qui vont périr dans les flammes. Parmi elles, 4 mineurs âgés de 5 à 17 ans. Le jeune homme qui est actuellement en garde à vue est bien connu des services de police. Il était d'ailleurs en détention à la maison d'arrêt de Nancy lorsque les policiers ont décidé de l'interpeller. Son casier judiciaire bien rempli comporte plusieurs mentions, notamment pour meurtre en bande organisée, enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs. Toujours selon les enquêteurs, l'ensemble du groupe aurait agi pour le compte d'un homme en fuite à l'étranger et sous le coup d'un mandat d'arrêt.
Un adolescent de 17 ans mis en examen et placé en détention provisoire à Montpellier, soupçonné d'avoir poignardé dimanche un jeune de 16 ans lors d'une bagarre. Il s'est présenté au commissariat en se désignant l'auteur des coups de couteau. La victime est décédée au CHU de Montpellier.
RMC 7h34, l'éclipse solaire a émerveillé les Français.
Des rassemblements un peu partout en France pour observer ce phénomène et des milliers de personnes se sont réunies au parc André Citroën, l'un des meilleurs spots de la capitale. Et parmi les spectateurs, de nombreuses enfants qui ne sont pas prêts d'oublier cet instant.
Avec les lunettes, on a pu voir l'éclipse. À un moment, on voyait que le soleil il ressemblait un peu à la lune.
C'était beau, c'est impressionnant parce que face à ces planètes, on est riquiqui, on est minuscule. C'est incroyable, c'est beau à voir. Ça n'arrive pas tous les jours des occasions comme ça. C'est-à-dire, je pense qu'on a été chanceux d'être là, en ce moment présent et tout.
Je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie parce que c'était incroyable.
Prochaine éclipse totale en 2081.
Le casse-tête de la garde de son animal de compagnie durant les vacances.
Quand on a un chat, un chien, les vacances demandent un peu d'organisation. L'emmener avec soi ou trouver une solution de garde, chenille, pet sitting. Les solutions ne manquent pas, mais Léonie Guilbault, la facture peut vite grimper.
Ton chihuahua serré contre lui, Serge se désole. Il n'a trouvé personne pour garder ses deux chiens. Seule option, le chenil. Et il s'y est pris 3 mois à l'avance pour avoir le choix.
On préfère privilégier un endroit où il y a beaucoup d'espaces verts avec des très très bons commentaires.
Il a donc opté pour la Normandie, quitte à faire plusieurs heures de route avant et après les vacances pour aller récupérer ses deux compagnons. Il veut le meilleur pour ses chiens et ne regarde pas la dépense.
Par chien, c'est dans les 1500. Pour les deux, ça peut aller à 3000 sur un mois. Ouais.
Delphine, elle aussi, a déjà laissé son animal en pension pour une 15aine d'euros par jour.
C'est sûr que c'est un peu plus cher, mais quand on est tout seul et qu'on n'a pas le choix, c'est mieux. Et puis, ils nous envoient des petites photos aussi pour nous dire « Ah, aujourd'hui, ils ont fait ça ».
Mais pour elle, c'est toujours un stress de laisser son animal à un inconnu.
C'est laisser un membre de sa famille. Je me sens mal de partir sans elle.
Rien d'étonnant pour Chrisland Bélivier, éducateur canin, car 20% de sa clientèle vient consulter après des mauvaises expériences en chenil.
Parce que le chien était exposé à trop de stress.
Pour éviter ces mauvaises surprises.
Le mieux, c'est de pouvoir aller sur place, à observer tout simplement la qualité, voir si les box sont propres.
Ne pas hésiter à faire un test sur une journée ou un week-end avant de laisser votre animal toutes les vacances.
Et l'autre solution, c'est d'avoir des beaux-parents sympas. C'est mon cas et j'espère que mon chien va bien. Elle revient de très loin et la voilà en finale.
Margot Chevrier, victime d'une fracture ouverte à la cheville il y a 2 ans, dispute aujourd'hui la finale du saut à la perche au championnat d'Europe d'athlétisme à Birmingham. Une finale, Léna Marjac, qui a déjà un goût de revanche.
4,50 m sauté en qualification des championnats d'Europe, synonyme de ticket pour la finale du saut à la perche. Une première depuis 2 ans, alors forcément un large sourire accompagne Margot Chevrier.
À chaque fois on me dit non, ça marchera pas, et en fait ça marche, et ça devait être chaud pour la finale, et en fait ça passe, je vais pas dire facilement, mais enfin quand même, ça reste une finale, on est 12 et il faudra être dans les meilleurs.
Être dans les meilleurs, Margot aurait pu ne jamais s'y retrouver. Le 2 mars 2024 au Mondiaux en salle, une mauvaise réception et fracture ouverte de la cheville. On lui annonçait que la perche s'était terminée, mais sa volonté sans faille lui a permis de retrouver le chemin des sautoirs, même si Margot a dû repartir de zéro et réapprendre à sauter.
Mécaniquement, j'ai plus le même pied. Médicalement, pour l'instant, j'ai pas le même pied. Donc ça change mon saut, ça change ma course, ça change mon impulsion.
Et ça a changé aussi sa vie. Tout doit être réfléchi, car cette cheville gauche, qu'elle appelle Josie, lui fait toujours mal.
Et si je reste une heure debout dans un magasin à rien faire et à piétiner, bah le soir à la séance, j'ai mal au pied. Je descends les escaliers, je me tire la rampe. Presque sauter à la perche, c'est le plus simple.
Et le plus sympa pour Margot Chevrier, c'est que cette finale européenne à Birmingham, elle la partagera avec avec Marie-Julie Bonin et Bérénice Petit, ses deux coéquipières en équipe de France, elles aussi qualifiées.
C'est bien sûr à suivre sur RMC. Le français Juste Kouaou Maté a décroché hier soir l'argent sur le 110 mètres et l'argent également pour Mohamed Abdallah Kunta sur le 400 mètres. Et le PSG soulève une nouvelle fois la Super Coupe d'Europe. Deuxième année consécutive que les Parisiens remportent ce trophée. Victoire hier 2-1 face à Aston Villa.
Les courses RMC Clément et c'est à l'hippodrome de Deauville à 20h15.
Et le pronostic de Frédéric Kita, son favori, le 2, Rêve Bleu, son outsider, le 3, Sing for the Hot.
Merci beaucoup Clément. Prochain journal, ce sera à 8h. Anthony est avec nous au 32-16. Bonjour Anthony.
Bonjour Rémi, un plaisir d'être avec toi.
Ravi également, on est dans la Nièvre Anthony.
Oui, bienvenue.
Dans quel coin? J'ai pas entendu.
Bienvenue, centre de la France, Nevers.
Bienvenue, Anthony. Et vous faites quoi dans la vie?
Chargé d'affaires dans l'industrie.
D'accord, et vous voulez nous parler des sapeurs-pompiers également qui sont appelés à la grève, à une grève nationale aujourd'hui?
Alors, je ne suis pas syndicat des pompiers, il y a sûrement des enjeux politiques dans les revendications, mais j'ai mon meilleur pote qui est pompier de Paris depuis une vingtaine d'années.
D'accord.
Et je sais que c'est un peu tabou en France, mais je les ai rarement entendus revendiquer sur le plan financier. Un petit peu plus sur le plan matériel, par exemple, il était donc il n'est plus au feu, mais maintenant il était au centre de formation du fort de Villeneuve-Saint-Georges, qui était très vétuste, et donc ils les ont déménagés dans des bâtiments tout neufs à Limeil-Brévannes, ce qui est très bien. Sauf que les bâtiments, ils sont déjà en train de tomber en lambeaux.
Ouais.
Et je sais que par-dessus tout, ça c'est pas comptabilisable, mais ce qu'ils veulent, c'est surtout arrêter de se faire cracher dessus, prendre des boules de pétanque et des frigos sur la tête lors des interventions, parce que ça arrive encore trop souvent.
Ça, c'est une autre, effectivement, un autre phénomène auquel sont confrontés aujourd'hui les sapeurs-pompiers dans certains quartiers, il faut le dire, dans certaines zones sensibles, effectivement, où ils sont les représentants de l'État au même titre que les policiers ou les gendarmes, et ils prennent les mêmes risques et parfois ils sont traités de la même manière.
Exactement. Et donc plus que, enfin, ça c'est un peu plus du concret. Je sais qu'il y aura d'autres revendications qui seront le financement des SDIS, des choses comme ça.
C'est ça.
Ce qui est très bien aussi, hein, mais. Il faut regarder le concret, le terrain et comment vivent nos pompiers qui nous sauvent la vie tous les jours.
Merci de ce message, Anthony, ce témoignage. Anthony qui nous appelait au 32-16, on était dans la Nièvre. Belle journée à vous. Dans un instant, sur RMC, plus de 450 accidents de la route graves en un an, 40 fois plus qu'il y a 6 ans. Cette semaine encore, un adolescent de 17 ans retrouvé mort à Marseille au lendemain de son passage aux urgences, en cause probablement le protoxyde d'azote. Il reste pourtant en vente libre jusqu'en février prochain. Le député du Nord, Vincent Ledoux, qui a travaillé sur la loi Riposte, loi contre les troubles à l'ordre public, est notre invité dans un instant sur RMC et sur RMC Story. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC, 7h43, le fléau du proto. Nouveau drame à Marseille. Un adolescent de 17 ans est mort mardi à son domicile de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille. La veille, mal en point, il s'était rendu aux urgences après avoir consommé du protoxyde d'azote. Plus de 450 accidents routiers graves recensés en 2025 en lien avec le gaz hilarant, 40 fois plus qu'il y a 6 ans. Le Parlement a définitivement adopté le 21 juillet la loi Riposte, la loi sur la sécurité publique qui interdira la vente du protoxyde d'azote aux particuliers, mais seulement à partir du 1er février prochain. Bonjour Vincent Ledoux.
Bonjour Monsieur Barret.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député Ensemble pour la République du Nord. Vous avez travaillé justement sur le texte, sur ce texte Riposte. On ne le dira jamais assez, le protoxyde d'azote, qu'on appelle le gaz hilarant, ce peut être mortel.
Absolument. C'est un gaz qui est absolument pas du tout hilarant en vérité, qui peut provoquer des séquelles irréversibles chez certains patients et qui doit être pris en considération, ce qui a été fait notamment par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dans la proposition, dans son projet de loi, loi Riposte, que nous avons adopté tout dernièrement au Parlement et qui permet d'offrir une véritable parade à ce fléau, vous l'avez dit, tant sur la route, lorsque vous conduisez dans un état qui ne permet plus une vigilance accrue, ou quand vous l'inhalez. Et c'est le cas de ce jeune homme à Marseille, et c'est vraiment absolument regrettable de devoir constater des décès en raison de l'inhalation de ce qu'on peut appeler une merde, en vérité.
C'est une véritable drogue qui peut amener à une addiction, forcément, qui a des conséquences, notamment cardio-respiratoires. Dans votre département, à Lille, il y a eu le drame de Matisse. C'était il y a quelques mois, ce jeune homme qui rentrait d'une soirée d'Halloween avec sa copine, qui traversait sur un grand boulevard, sur le passage protégé, et qui a été fauché, mortellement fauché, par un chauffard déjà connu pour d'autres sujets, des délits routiers, mais aussi des violences de la police, et qui était sous l'effet du protoxyde d'azote. Je crois qu'il roulait, on a estimé qu'il roulait à peu près à 100 km par heure en plein centre de ville de Lille, en plein centre de Lille, quand il a fauché Matisse. Est-ce que ce drame qui a beaucoup marqué à Lille, c'est ce qui vous a fait basculer, ce qui vous a encore plus mobilisé sur le sujet?
Oui, complètement. Parce que quand j'étais maire, effectivement, on déplorait que sur la voie publique, on retrouvait beaucoup de capsules, de bonbonnes, de gaz. Mais en vérité, il y a quelques années, on s'en inquiétait pas plus que ça. Là, le drame de Matisse, ça a été un véritable détonateur. Parce que, en vérité, on voit une innocence qui est fauchée comme ça sur le bord de la route, des parents qui sont complètement désemparés. Et au-delà des parents, toute une communauté, puisque tout le Nord a vraiment vibré à cette mort. Et on s'est dit, c'est plus possible. Et puis, quand on regarde les chiffres, véritablement, vous l'avez très bien dit en introduction, c'est un véritable fléau. Donc, il faut s'y attaquer. Et donc, on s'y attaquait parce que les magistrats, mais aussi les agents de police nous disaient, on est complètement démunis, on n'a pas la parade nécessaire pour pouvoir contrecarrer sur le terrain ce type de fléau. Et donc, c'est ce que nous avons fait à travers la loi Riposte, hein, puisqu'on a introduit un délit d'inhalation hors acte médical. On a aussi, on essaie de frapper sur la détention ou le transport par un particulier au-delà du maximum réglementaire, parce que parfois les agents nous disaient, on découvre des bonbonnes de gaz dans une voiture, mais on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Alors les procureurs de la République tentaient de bricoler sur le terrain un certain nombre de parades, mais ce n'était pas suffisant, il fallait la force de la loi. Et aujourd'hui, on a la force de la loi qui va même jusque Internet, hein, puisqu'on prévoit lorsqu'il y a des ventes de produits à usage détourné ou qui sont des offres illégales, de demander à l'hébergeur de retirer cette offre sous 24 heures ou 48 heures. Donc vraiment, on s'est doté d'une parade, je pense, la plus complète possible, avec la vente interdite à partir de février 2027, comme vous l'avez dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué pour pouvoir lutter contre ça. Mais
il n'est pas question
aussi faire de la prévention, et j'observe que vous, les médias, vous faites un très très bon travail pour prévenir les jeunes, mais aussi les enseignants. Et je sais que, par exemple, dans les Hauts-de-France, le rectorat est très très à l'œuvre pour informer les jeunes des conséquences qui sont des conséquences très graves. Et encore une fois, je le répète ici, irréversibles pour certains.
Vincent Ledoux, une question.
Toute leur vie dans un fauteuil.
Vincent Ledoux,
dramatique.
Vincent Ledoux, une question quand même. Il n'est pas question de baisser les bras, évidemment. Vous agissez, on l'entend, mais le cannabis, la drogue, en général, vous le savez, je ne dis pas que c'est un combat perdu, mais il y a toujours des moyens de passer outre. Et puis, ceux qui sont dans l'illégalité le resteront. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité de mettre les moyens, je parle d'hommes, d'effectifs sur le terrain pour lutter contre ça? Est-ce qu'on manque pas de contrôle?
Non, c'est pas seulement un problème d'effectif. J'ai simplement envie de dire qu'ils étaient démunis en termes de parade à opposer, puisque vous savez très bien que nous sommes dans un état de droit, et c'est tant mieux, et que les failles juridiques existaient et qu'on pouvait très bien anéantir le travail qui est fait sur le terrain par nos agents de service public. Donc, je pense que là, encore une fois, cette loi qui est tout à fait neuve et qui n'a pas encore été appliquée, je voudrais rendre hommage au travail de Laurent Nunez qui a vraiment bien écouté la représentation nationale. Elle va être très très utile. Maintenant, moi j'observe aussi qu'il y a des ventes avec des goûts, des saveurs, enfin, il y a toute une parade commerciale qui est en train de se mettre en œuvre, et donc on n'est plus du tout vers un détournement d'usage d'un protoxyde d'azote qui à la base est un produit tout à fait légal et qui sert notamment pas simplement dans la cuisine comme on le dit très souvent, mais aussi dans les services hospitaliers. Là on est carrément sur quelque chose d'organisé en amont, et là sans doute qu'il faudra être vigilant. Moi je connais peu les producteurs, j'ai pas connaissance de ces filières, mais je pense qu'un vrai travail sur l'organisation de ces filiales est encore à faire. Mais en tout cas aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour vraiment intervenir, agir, être beaucoup plus fort.
Et les contrôles seront effectués et les sanctions tomberont.
Pardon.
Et les contrôles seront effectués, les sanctions tomberont, c'est ce que vous nous dites.
Mais oui, mais bien entendu, de toute façon, nos agents sont déjà très très à l'œuvre sur le terrain, les polices municipales aussi, les maires sont mobilisés à travers des arrêtés. On voit bien aussi que les préfets, c'était le cas dans les Bouches-du-Rhône, prennent les arrêtés qui vont bien, justement.
Donc on a pris la mesure du fléau.
Encore une fois,
Vincent Ledoux.
C'est des comportements individuels et on ne peut que regretter que des jeunes soient attirés par, encore une fois, ces produits qui sont des produits extrêmement néfastes pour la santé. Il faut le redire,
Merci d'être avec nous, Vincent Ledoux. On l'entend très engagé, passionné par cette lutte contre le protoxyde d'azote. Merci Vincent Ledoux d'avoir été avec nous, député Ensemble pour la République du Nord. RMC, 7h50. Dans un instant, le portrait du jour. Victor Pourchet, on parle de qui ?
Pierre de Gaulle, petit-fils du général et fan de Vladimir Poutine.
Merci, à tout de suite sur RMC, sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC 7h50. Le bonus RMC de Charlène Villemer. Charlène, Britney Spears. Et la musique, c'est fini.
Oui, la chanteuse l'a annoncé sur le réseau X il y a quelques jours. Je la cite, je ne veux pas être dans ce milieu. Tout le monde, sans exception, a profité de moi. Un long message accompagné d'une photo de ses deux garçons à qui elle présente ses excuses pour ses erreurs du passé. Paparazzi, surmenage, rupture conjugale, Britney explose en 2007, c'est le fameux épisode de la boule à zéro. Elle est placée ensuite sous tutelle à 26 ans et pendant près de 15 ans, son père contrôle tout. Maintenant, elle claque la porte à la musique pour se tourner vers une vie plus spirituelle.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h52, le portrait du jour avec vous, Victor Pourchet. Ce matin, vous nous présentez Pierre de Gaulle, petit-fils du général.
Et qui vient de lancer un appel aux dons pour sauver, dit-il, la boisserie, demeure emblématique du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Sauver de quoi, vous allez me demander? Eh bien, semble-t-il, de l'État. Pierre de Gaulle possède 50% de la boisserie, ses frères l'autre moitié. L'entretien coûte cher, les frères veulent vendre. L'État est prêt à l'acquérir pour en faire, voire imposer son classement en tant que monument public protégé. Pierre de Gaulle souhaite que le domaine reste dans la famille.
Quel est le profil de Pierre de Gaulle?
Eh bien, celui d'un grand fan de la Russie, presque sa deuxième patrie d'ailleurs, lui qui disait vouloir acquérir la nationalité russe. Faut dire que c'est elle qui lui a donné une visibilité. Qui avait entendu parler de ce conseiller en stratégie pour des entreprises, de ce financier passé par HEC puis Rothschild avant l'invasion de l'Ukraine, avant que Moscou ne lui offre un rond de serviette dans des inaugurations de musées au mouvement international russophile, tout près du chef de la diplomatie russe Lavrov en 2023. Le général, c'était le non-alignement de la France. Pierre, ça ressemblerait plutôt à une éclipse russe. Lui, la lune, soupçonnée de cacher le soleil du Kremlin. Exemple pêle-mêle avec certaines de ses déclarations. Vladimir Poutine est un grand leader. Les États-Unis l'ont poussé à faire la guerre. Et petite dernière en bonus, les sanctions européennes contre des Russes lui font penser à la spoliation des Juifs par Vichy.
Forcément, ces sorties font réagir.
Oui, Pierre est le petit dernier qui essaye d'exister, disait aux Parisiens une source proche de la famille de Gaulle qui craint qu'il soit manipulé. La famille, elle est proche, justement, elle a pour lui du mépris, écrivait Le Monde en citant son frère Yves. Les positions de Pierre sont totalement inexactes, qu'il les considère comme celles du général de Gaulle est faux et imbécile. Ça promet pour la prochaine cousinade.
Merci beaucoup Victor Pourchet, RMC 7h54. Tout l'été des reportages près de chez vous, 5 mois après les élections municipales.
RMC
dans vos villes.
Et ce matin, direction le Var, à Cuers, une commune de 13 000 habitants. Ici, la municipalité cherche depuis plusieurs années des solutions pour faire baisser la température, alors que la ville expérimente différentes installations pour créer des îlots de fraîcheur, des projets portés par le maire d'Hiver Centre, Bernard Moutet. Reportage de notre correspondante Anna Jojard.
Rendez-vous au square des Lutins où les toboggans en inox et balançoires sont désormais abrités par de grandes toiles colorées depuis cet été. Avant quoi ?
Il n'y avait aucune ombre. Sur les jeux, on était à plus de 50 degrés.
Jean-Jacques Roux est le directeur général des services de la ville de Cuers.
Grâce donc au voilage, on est sur un différentiel de température de 25 degrés. On est à nouveau sur des températures acceptables et qui permettent l'usage permanent des jeux.
Et justement, en pleine journée, Elisabeth et sa petite fille sont venues profiter de ce coin d'ombre.
C'est vrai que ça protège à... C'est
c'est bien. Hein. C'est bien aménagé, je trouve.
Vous sentez la différence quand, si vous allez ailleurs, si vous sortez
En plein soleil. On est en plein soleil, on ne peut pas rester dehors.
Ces voiles d'ombrage, la mairie les a aussi positionnées dans une partie de la rue commerçante, très exposée au soleil.
Là, en prenant la température là, sur le goudron de la rue au soleil, le thermomètre affiché est 105 degrés. Je fais 2 mètres sur la droite, je passe sous le voilage, toujours sur le goudron. On est à 40 degrés.
60 degrés de différence au sol et sous les voiles, l'impression d'un courant d'air frais sur la peau.
On sent bien la fraîcheur quand on passe.
On favorise même de passer dans cette rue plutôt que dans d'autres rues quand le soleil cogne parce que c'est plus agréable. Et c'est même agréable les jours de marché parce que souvent il y a la queue à la boulangerie. On peut faire la queue à l'extérieur sans suffoquer.
À une centaine de mètres de là, on retrouve désormais le directeur général des services à l'école Jean Jaurès, rénovée en 2024.
Donc là, on est rentré à l'intérieur de l'école. Donc il y a eu un choix de préau de volume important, ce qui permet une ventilation entre les bâtiments de l'école. Et vous voyez au fond la cour oasis qui a été créée, la végétalisation amenant un îlot de fraîcheur.
Et si on lève le regard, on peut voir des mouchards à billets, des plaques trouées installées devant les fenêtres pour faire de l'ombre. À la climatisation, la ville a préféré un système de rafraîchissement d'air qui ne rejette pas de chaleur vers l'extérieur. Des installations qui ont porté leurs fruits dans les salles de classe.
Pendant les pics de chaleur du mois de mai, on a eu des températures de 33, 34, 35 degrés à l'extérieur. À l'intérieur, on était entre 24 et 27.
Bernard Moutet est le maire de QRC. Depuis 2022, sa ville consacre 200 à 300 000 euros par an pour faire baisser la température l'été.
Au début, on se moquait de nous, mais bon, on se rend compte que maintenant, il faut arrêter de parler du changement climatique, on le sait, il est là et il faut être dans l'action. On a beaucoup de villes qui nous contactent justement pour un petit peu voir cette démarche.
Des villes de toute la France comme Lyon ou Pessac vers Bordeaux. Dans cette démarche de partage d'expérience, QR s'organise aussi depuis 3 ans un salon sur ce sujet pour les collectivités. Il aura lieu le 23 septembre cette année.
Merci Anna Jojard. Dans un instant, le journal de 8h et juste après l'écho avec Pierre Rondeau. Pierre, les jeunes galèrent sur le marché de l'emploi, c'est pas nouveau, on le sait, mais la galère pourrait être encore se corser.
Oui, parce qu'ils ont un nouveau concurrent, enfin une concurrente. Elle ne coûte pas cher, elle ne prend pas de vacances, pas de week-end, elle n'est jamais malade, c'est l'IA.
Allez, c'est dans un instant sur RMC et sur RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet, à la une des pompiers appelés à la grève pour demander plus de moyens.
Mobilisés contre les flammes partout en France, cet été, ils alertent sur leurs conditions de travail. Des syndicats reçus au ministère de l'Intérieur à midi. Le pic de la chaleur aujourd'hui et ces canicules à répétition pourraient coûter jusqu'à 15 milliards d'euros à la France, chiffre le gouvernement. Et puis Lionel Messi va-t-il raccrocher les crampons ? L'Argentin se pose la question après le décès de son père.
Un appel à la grève chez les pompiers en pleine saison des incendies.
Des feux d'une ampleur jamais vue en France et des pompiers à bout de souffle. Ils veulent alerter aujourd'hui sur leurs conditions de travail et leurs difficultés. 9 syndicats appellent donc à la grève pour demander plus de moyens et pour que leur santé et leur sécurité deviennent une priorité nationale. Leurs représentants reçus à midi au ministère de l'Intérieur et en Gironde, frappés par un gigantesque incendie, les pompiers se sont confiés au micro RMC de Julie Brault sur leur mal-être.
Les images des flammes monstrueuses sont encore dans sa mémoire.
On a vécu une chose qui est hors norme. Certaines images de se sentir un petit peu impuissant.
Franck a été mobilisé sur le front au premier jour du méga-feu dans un camion non adapté aux feux de forêt.
C'est ce qui sert à éteindre les feux d'appartement, feux de maison. Ces camions-là, après quand on remonte dedans, même si on coupe toutes les ventilations, admettons, mais les cabines sont quand même enfumées. Donc on reste quand même dans un milieu enfumé. Donc c'est difficile de pouvoir respirer correctement.
Un manque de moyens matériels, humains aussi, très handicapants sur le terrain et qui a dû être compensé par les citoyens, rappelle le sapeur-pompier Guillaume Millet.
Quand on fait venir des citernes d'agriculteurs pour arroser les lisières, c'est que clairement on est en rupture capacitaire de nos propres moyens, des moyens de sapeurs-pompiers.
Un système à bout de souffle selon le secrétaire général de la CFDT qui fera face ce midi à Laurent Nunez.
Ça fait 10 ans qu'on est dans leur bureau. Moi j'en suis à mon 5e ministre de l'Intérieur et aujourd'hui ils sont obligés de nous entendre. On a perdu 4 collègues, dont 2 ici en Gironde. C'est un bilan qui est catastrophique.
On ne veut plus de mots, mais des lois et des décrets pour embaucher dans les casernes et financer des équipements adaptés, conclut le sapeur-pompier.
La colère, le ras-le-bol, la souffrance des sapeurs-pompiers, nous en parlerons à 8h45 avec notre invité, le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours.
Des pompiers mobilisés sur de nouveaux incendies depuis hier dans le Pas-de-Calais. Les flammes ont ravagé 180 hectares dans les dunes de la Côte d'Opale. Feu contenu à Danne, mais toujours en cours hier soir près d'Ardelot. 1200 vacanciers ont pu retrouver leur camping après évacuation. Un autre incendie au sud de Rennes, en Bretagne. Feu de forêt qui a parcouru 200 hectares au niveau de la commune de Saint-Just. Une centaine de personnes évacuées. Et dans les Deux-Sèvres, près de Poitiers, les flammes parties d'un champ ont brûlé une maison dans le village de Loumois. Trois corps calcinés ont été retrouvés. Enquête ouverte pour homicide involontaire.
On entre dans le dur, le pic de chaleur commence véritablement aujourd'hui.
Et ça va continuer demain, deux jours durant lesquels 80 départements sont en vigilance orange canicule. Toutes les régions sont en crise au niveau de la sécheresse, alerte la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, après une réunion hier avec les préfets. Romain Cluzel, elle appelle à plus de fermeté sur les restrictions d'eau.
Exactement, Monique Barbu insiste auprès des préfets. Les restrictions d'eau doivent être appliquées sans délai et avec uniquement de rares dérogations. Les contrôles doivent d'ailleurs augmenter dans les zones où l'alimentation en eau potable est la plus tendue. Une fermeté affichée par la ministre face à une sécheresse déjà historique. Toute la France est touchée et 3 millions d'habitants sont placés en vigilance concernant l'approvisionnement en eau. Et les conséquences se multiplient auprès des agriculteurs, de certaines industries. Monique Barbu estime d'ores et déjà que cet été caniculaire va coûter entre 10 et 15 milliards d'euros. La ministre de la Transition écologique souhaite également accélérer sur l'adaptation du pays. En privé, elle dit même s'interroger sur l'intérêt d'installer des usines de dessalement de l'eau de mer pour faire face à des sécheresses dans le futur.
La sécheresse record que nous connaissons actuellement, est-ce que vous, de votre côté, vous faites des efforts, vous faites attention? Vous nous appelez au 3216 et puis je reviens sur les sapeurs-pompiers, leur colère, leur ras-le-bol, leur grève nationale aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette colère? Est-ce que vous les soutenez là? Encore, vous nous appelez au 3216.
Une question à présent, des élus ont-ils bénéficié d'emplois fictifs à la RATP? C'est le soupçon de l'association AC Anticorruption qui porte plainte contre X. Inès Zegloul en direct avec nous. Inès, la régie des transports parisiens et 200 élus sont accusés de faire partie d'un système.
Oui, pas de présence, parfois aucune fiche de poste identifiable, mais bien des temps pleins rémunérés, s'interroge l'association Anticorruption qui base sa plainte sur plusieurs articles de nos confrères, parmi eux celui du Canard Enchaîné, affirmant, vous l'avez dit, que 200 élus auraient bénéficié de ce système, d'un emploi à temps plein à la RATP, des élus de régions parisiennes, tous bords politiques confondus. Démenti formel de l'Association des Transports en Commun d'Île-de-France et RATP qui conteste aucun emploi de complaisance au sein de l'entreprise, martèle-t-elle avant d'ajouter « Nous suivons les règles qui permettent à un élu de concilier vie professionnelle et mandat local ». C'est désormais Valérie Pécresse qui demande des comptes. La présidente de la région d'Île-de-France exige que toute transparence soit faite sur la politique de recrutement de la RATP.
Explication d'Inès Zegloul.
C'est un salon qui fait polémique en Savoie.
Le salon du tout-terrain prévu à Valoir à la fin du mois. 5 jours pour promouvoir les loisirs motorisés des 4x4 qui vont sillonner la montagne. Activité jugée scandaleuse par 4 associations qui demandent, Vincent Chevalier, l'annulation du salon.
Une lettre ouverte pour interpeller directement la nouvelle municipalité de Valoir.
On demande la fin de ce salon, la fin de cette animation.
Martine Noraz, présidente de l'association Vivre et Agir en Maurienne.
On ne peut plus promouvoir ce type de véhicule énergivore qui permet d'aller partout dans la nature et qui par conséquent dérange la faune, abîme la flore, etc.
Sans compter la pollution sonore et atmosphérique selon ces associations. Un salon surtout composé de stands d'après Benjamin Serve, l'un des organisateurs.
Mais la partie balades, c'est même pas 5% du salon. C'est quelques balades encadrées dans la montagne.
Au total, une cinquantaine de véhicules arpenteront la montagne chaque jour sur des chemins balisés.
C'est uniquement des pistes qui existent, qui sont déjà utilisées par Valoir et la société d'exploitation des remontées mécaniques de Valoir. C'est-à-dire qu'on utilise uniquement des pistes qui sont utilisables, carrossées, on ne s'écarte jamais des pistes.
Si cette 24e édition devrait se dérouler normalement, une réunion de concertation avec les autorités et l'organisation a été demandé par ces associations pour les futurs salons.
Pas de 4x4 à la montagne. Là encore, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous nous appelez au 3216.
Dans le massif du Jura, il y aura bientôt de nouveaux panneaux. Attention aux lynx, comme pour les chevreuils, comme pour les vaches. Mais donc, cette fois, pour faire attention à la traversée des lynx, c'est les autorités qui l'ont annoncé. Il y aurait environ 200 lynx en France, 80% dans le massif du Jura. Le jour d'après l'éclipse, et si le spectacle était pour beaucoup aussi exceptionnel que rare, il vous a peut-être fait mal aux yeux. Les recherches Google mal aux yeux ont bondi de 5000% cette nuit. Alors, on ne sait pas vraiment si ces inquiets ont porté leur lunettes. lunettes. Oui, en tout cas, il y a de l'inquiétude ce matin.
Il y a beaucoup aussi d'effets psychosomatiques, je pense. Les sports et la saison démarrent plutôt bien pour le PSG.
Mais qui remporte pour la deuxième saison de suite la Super Coupe d'Europe. Victoire 2-1 hier soir en Autriche contre Aston Villa. De quoi donner encore plus faim de trophée au capitaine Marquinhos.
On a des records à aller chercher. C'est vrai que dans la carrière, il y a des trophées qui marquent plus. Mais quand on voit après les numéros de trophées qui ont gagné, ça reste dans ma histoire, ça reste dans l'histoire du club. Ça montre les ambitions de ce club, ça montre les ambitions des joueurs qui sont là. Même si on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, on est arrivé aujourd'hui, on a su surmonter les difficultés. Et ça fait vraiment plaisir de démarrer cette saison avec un trophée très important international comme ça.
Et beau cadeau d'anniversaire pour le PSG, puisque Arthur Asquin, notre rédacteur en chef qui est fan du PSG, nous dit que le PSG est né le 12 août 1970.
Ah bah tiens, bon anniversaire, un bon cadeau. Une légende du foot peut-être bientôt à la retraite. Beaucoup de doutes ce matin autour de Lionel Messi, l'Argentin de 39 ans, s'est exprimé sur ses réseaux sociaux quelques jours après la mort de son père des suites d'une longue maladie. Et il semble se poser beaucoup de questions, Corentin Roland.
Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer, écrit Lionel Messi dans un message publié sur Instagram. Les mots sont adressés à son père, Jorge Messi, mort d'une maladie samedi dernier. Je ne faisais que jouer au football, poursuit l'octuple Ballon d'Or. Maintenant, j'ai pas mal de doutes sur le fait de continuer longtemps. À la fois son père et son conseiller, durant sa carrière, Jorge Messi a accompagné son fils Léo dès ses 13 ans de l'Argentine vers Barcelone. Tu as été à mes côtés depuis le début, il manquait si peu pour arriver au bout, regrette le joueur de 39 ans dans sa lettre. Jorge Messi n'a pas assisté à la Coupe du Monde cet été. Le capitaine argentin confie avoir souffert de son absence lors de la finale perdue face à l'Espagne, à l'issue de laquelle il n'a livré aucun indice sur une éventuelle retraite. Messi est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Inter Miami, mais n'a pas communiqué de date de retour.
Et puis de l'athlétisme au programme aujourd'hui, finale du saut à la perche chez les femmes au championnat d'Europe. Un programme aussi alléchant à ceux de natation, notamment la finale du 100 mètres papillon avec Maxime Grousset, le double champion du monde de la discipline. Ce sera à vivre évidemment sur RMC, la finale du 100 mètres à 18h30.
Merci beaucoup Clara, et prochain rendez-vous pour le prochain journal, ce sera à 8h30. Thierry est avec nous au 32-16. Bonjour Thierry.
Et bonjour Rémi, très heureux d'échanger avec vous.
C'est réciproque Thierry, on est en Charente à la Rochefoucauld.
Exactement.
Vous faites quoi dans la vie Thierry?
Gestionnaire de site internet.
D'accord. Et vous êtes passé à l'électrique, deux véhicules.
Ouais.
Et achetés d'occasion.
Ouais, et à la base, je suis un anti-électrique, je voulais même pas en entendre parler.
On en parle parce que tout à l'heure, Pierre Rondeau nous disait qu'il y a une nouvelle prime qui vient d'être mise en place, 337 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Vous nous dites qu'au départ, vous n'étiez pas du tout électrique.
Ah non, puis je voulais même pas en entendre parler. Moi, la blague, c'était de dire j'ai pas de rallonge assez longue pour me balader en voiture électrique. Quoi.
Bon, vous avez trouvé la rallonge apparemment.
Ouais, et en fait, pour les voitures électriques, on a acheté deux véhicules, et en plus, ils sont tous les deux de 2022, donc ils ont 4 ans, très peu kilométrés, c'est des retours de loc. Et on a payé, et pour vous dire, pour rien cacher, les deux voitures achats cumulés, j'en ai pour 26 000 euros. Une Citadine et une berline.
D'accord. Soyons concrets, la Citadine, par exemple, vous l'avez payé combien?
7 500 euros.
Elle avait combien de kilomètres?
17 000 kilomètres.
Ah ouais, c'est rien.
Et Rémi, chose très importante, elle avait ce qu'on appelle le SOH, c'est-à-dire la vitalité de la batterie, à 100%. Oui.
Parce que c'est ça le gros doute, la grosse question, la grosse crainte de ceux qui hésitent à passer à l'électrique d'occasion, c'est de dire, mais dans quel état est la batterie?
Non, il y a le SOH qui est très important.
Alors, le SOH, c'est quoi? C'est une garantie, on contrôle la batterie?
Voilà, c'est la batterie qui est contrôlée par le constructeur et qui donne la vitalité de la batterie. Donc là, elle est à 100%, c'est-à-dire qu'elle a sa totale capacité.
Et en prime, vous êtes garanti, j'imagine?
On est garanti pendant 7 ans sur la batterie.
Donc ouais, jusqu'en 2020,
jusqu'en 2029, je suis tranquille. Et puis pour répondre à Pierre, si je peux me permettre, vous pensez bien que je me suis renseigné sur le prix des batteries. Je me dis, tiens, si demain la batterie elle lâche, combien ça va me coûter? Et bien sur la petite Citadine, ça me coûtera en échange standard 2500 euros.
Oui, les 15 000 euros cités, c'était pour les très grosses voitures.
Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une société française, en plus, qui vient juste d'être créée, qui est capable de localiser l'élément défectueux d'une batterie, ce qui permettrait de changer seulement l'élément défectueux et non pas une batterie complète. Donc, on aurait des réparations.
Thierry, pas de regrets.
Ah non, et puis comme je pense 99% de ceux qui sont passés en électrique, on reviendra par en arrière.
C'est ce qu'on entend très souvent, ça c'est vrai. Ouais, merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous et belle journée du côté de la Rochefoucauld en Charente, RMC, il est 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
En pleine sécheresse, 80% d'un bassin communal vidé en 2 heures. pour arroser deux jardins privés. Voilà ce qui s'est passé aux Tourettes sur Loup. On est dans les Alpes-Maritimes. Frédéric Poma, le maire de la commune, a décidé de verbaliser les contrevenants jusqu'à 3000 euros d'amende. Ça peut en tout cas aller jusque-là. Il va nous expliquer sa position. C'est dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
7h16, ce matin, nous allons à Tourettes-sur-Loup. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes. À Tourettes-sur-Loup, où leur a suffi de deux propriétaires privés pour vider en 2 heures 80% d'un bassin d'eau qui alimente le village. 80 mètres cubes partis. Pourquoi ? Pour l'arrosage de jardins privés. Nous sommes en pleine période de sécheresse. Bonjour Frédéric Poma.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Tourettes-sur-Loup. Combien d'habitants au Tourettes-sur-Loup ?
Écoutez, on est à 4500 habitants à l'année, mais la caractéristique, c'est que comme nous sommes une commune touristique, eh bien, du 1er juillet au 31 août, la population est multipliée par 3 puisqu'on passe à 13 000 habitants.
De 4500 à 13 000 habitants. Racontez-nous ce qui s'est passé chez vous il y a une semaine.
Eh bien, on a un bassin qui alimente une cinquantaine de propriétés. Et donc, on a été alerté. Pardon ?
En eau potable.
En eau potable, absolument. Et on a été alerté par notre fournisseur d'eau que le bassin, en 2 heures, était vidé de manière très problématique. Et que si ça continuait, on allait devoir couper l'eau. Et donc, aujourd'hui, l'avantage, c'est que tous les compteurs de la commune sont connectés et donc ils ont pu très rapidement identifier les deux propriétés qui posaient problème.
Donc vous êtes allé sur place ?
Alors donc dans un premier temps, le prestataire est allé sur place pour informer qu'il y avait une consommation anormale et puis moi ensuite j'ai envoyé la police municipale un petit peu plus tard, oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont constaté ?
Eh bien, autant sur la première propriété, tout était rentré dans l'ordre, autant sur la deuxième, le jardinier était encore en train d'arroser. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai pris la décision de verbaliser.
Donc toute cette eau était en train de partir parce que deux propriétaires, en tout cas deux jardiniers, étaient en train d'arroser leur jardin.
Oui, vous avez raison, vous aviez deux propriétés qui mettaient à mal, qui mettaient en difficulté une cinquantaine de résidences.
50, je le répète, parce que moi je suis un peu halluciné, c'est-à-dire que 50 propriétés, 50 maisons, 50 de vos administrés, foyers, ont été sur le point d'être privés d'eau potable parce que deux jardiniers arrosaient leur jardin.
Exactement.
Bah, ils devaient les faire de manière intensive.
Oui, vous savez, on est une très belle commune, donc il y a des très très belles maisons, et qui dit très belle maison dit très beau jardin. Mais là aujourd'hui, ils étaient un petit peu dans l'exagération. Ce sont pour la plupart des étrangers qui ne connaissent pas nécessairement les problématiques françaises. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous a dit le deuxième jardinier, celui qui a été un peu récalcitrant ?
Ben écoutez, il a fait mine de pas savoir, mais quand on lui a dit, écoutez, on est déjà passé une première fois pour vous alerter, là on revient, et alors qu'on est dans une situation vraiment très problématique, et ben voilà, maintenant on arrête de discuter.
Et donc vous avez infligé une amende ?
Oui.
Une amende de combien ?
Alors, l'amende, comme c'est un arrêté préfectoral qui est en cause, elle peut aller jusqu'à 1500 euros, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en cas de récidive, jusqu'à 3000 euros.
Et là, vous avez infligé une amende de combien ?
Alors écoutez, après moi je passe la main, donc je ne sais pas, puisque c'est un arrêté préfectoral.
D'accord.
Mais l'amende peut aller jusqu'à 1500 euros.
Le vrai problème, et c'est un enjeu qui est devenu aujourd'hui majeur, parce que les périodes de sécheresse se multiplient. On connaît actuellement une période de sécheresse record, mais on le sait, monsieur le maire, ce n'est que le début. Le vrai problème, c'est que dans votre commune l'été, il y a beaucoup de monde. Alors, c'est un avantage aussi, on va pas se plaindre du tourisme et de l'apport financier que ça vous amène, mais c'est qu'il faut que chacun se raisonne et que chacun prenne conscience de la question.
Oui, après, il faut pas généraliser. Ce sont deux personnes sur les 13 000 personnes qu'il y a sur la commune. On est quand même dans un endroit où les gens sont sensibilisés déjà à cette problématique de l'eau. On sait que c'est vraiment le 15 août qui est le pic de consommation. Nous, on a lancé plusieurs alertes. Et aujourd'hui, la situation, elle est redevenue normale. Ça veut dire que vraiment, les gens, les administrés ont conscience de ce problème. Et c'est ça qui est important.
Et vous avez déjà connu ce type de situation en 2023, c'est ça ?
Exactement, en 2023, on a eu une première alerte sécheresse, ce qui déjà, moi, m'avait permis de demander à notre prestataire de fournisseurs d'eau de me faire la liste des 100 premiers, des plus gros consommateurs d'eau. Et en fait, une famille moyenne, elle consomme entre 200 et 250 mètres cubes par an. Mmh. Et là, le number one était à 12 000 mètres cubes. Donc, il a vraiment fallu sensibiliser les gens en disant, là, c'est trop, quoi.
Donc, les gros consommateurs dont vous parlez, la liste des 100, vous les avez contactés, vous les avez alertés, en tout cas sensibilisés.
Absolument, on leur a envoyé un courrier. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des retours et de gens qui nous ont remerciés parce qu'en fait, il y avait beaucoup de fuites. Vous savez, la fuite, c'est vraiment le point noir pour le réseau communal ou pour un réseau privé. Et moi, par exemple, à l'entrée de ma maison, j'ai le compteur et pour arriver jusqu'à la maison, il y a 200 mètres. Donc forcément, il peut y avoir des fuites. Et il y a eu des propriétaires qui nous ont dit « Non, mais on a détecté des fuites dont on ne soupçonnait pas l'existence. »
Donc tout ça, c'est très positif, cette mobilisation de la part de la commune.
Absolument, moi je suis très satisfait du comportement et de la prise de conscience des administrés.
Merci Frédéric Pomma d'avoir été avec nous, maire de Tourrette-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, et belle journée à vous. RMC, 8h21, Pierre Rondeau est avec nous. L'économiste d'RMC, Pierre Rondeau, le chômage des jeunes s'est dégradé et c'est un constat partout dans le monde, c'est international.
Constat international, Rémi, oui. Dans un rapport récent, l'Organisation internationale du travail pointe une situation inquiétante pour les 15-24 ans à travers le monde. Dans l'ensemble des pays développés, le taux de chômage des 15-24 ans a atteint 12,4% en 2025 contre 12,3% en 2024, soit 67 millions de jeunes sans emploi. Pire encore, la part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation a aussi augmenté pour atteindre 20%, soit plus de 257 millions de personnes, du jamais vu dans l'histoire récente.
Pierre Rondeau, comment l'expliquer ?
Alors d'abord, les explications évidentes, le ralentissement de la croissance économique ou encore les tensions géopolitiques qui perturbent grandement les marchés. Mais un nouvel élément apparaît dans l'analyse, l'essor de l'IA, de l'intelligence artificielle. Cette montée en puissance transforme les perspectives de l'emploi des jeunes. Ces jeunes encore inexpérimentés se retrouvent mis en concurrence avec des intelligences artificielles plus compétentes, plus performantes, plus productives. Des emplois intermédiaires qui étaient jusqu'ici la porte d'entrée du marché du travail pour les jeunes, comme les secrétaires et assistants administratifs, les téléconseillers, les agents de centre d'appel, les techniciens, les développeurs informatiques ou les conseillers bancaires. Tous ces emplois disparaissent progressivement, remplacés par l'IA. Pour vous donner un exemple, moi-même, étudiant, je travaille dans une banque, j'étais chargé de classer les dossiers clients, et bien ce service a été maintenant intégralement remplacé par de l'IA.
Que peut-on faire ? Y a-t-il quand même des motifs d'espoir ?
Alors heureusement, il y a des emplois qui résistent encore et toujours à l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur social, les métiers de l'humain et de la santé, les médecins, infirmiers, aides-soignants, kinés, psychologues, éducateurs spécialisés, ils ne seront jamais remplacés par de l'IA. Idem côté artisanat, les métiers manuels qualifiés, voire ultra qualifiés, dans le luxe, dans le sur-mesure, dans les pièces uniques, et même pour les techniciens du bâtiment, une IA sera bien incapable de remplacer un plombier ou un électricien. Mais pour assurer ces métiers et garantir aux jeunes une perspective d'avenir positive, il faut resserrer les liens entre l'enseignement supérieur et le monde professionnel, renforcer les passerelles, renforcer l'alternance et l'apprentissage, parce que la situation, oui, s'est vraiment détériorée.
Un point sur les prix des carburants, comme tous les matins.
Alors, ça augmente, le litre de 95, 1 euro. Alors, on est passé sous les 2 euros, mais ça augmente par rapport à hier. 1,979 € pour le 95, le gazole, 2,176 €, le baril de pétrole, il baisse légèrement à 87,56 $ et le gaz à 60,49 €.
Merci beaucoup Pierre Rondeau, on va se détendre un peu à présent, il est en vacances mais on a son meilleur avec nous, Arnaud Demanche.
Le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé la mise en vente de sa filiale américaine qui aide la fameuse police américaine de l'immigration à localiser les migrants.
Et ça a fait scandale, rendez-vous compte, une société française qui vend des choses ignobles autour du monde. Comme si la vache qui rit ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a fait au monde, hein ? Les membres du gouvernement ont fait les vierges effarouchées en disant « Que huit ? Que non ? Nous vendons des services pour nuire à l'être humain, nous les Français ? Le peuple des Lumières. Les Mirage 2000 qu'on vend au pays du Golfe, c'est pas juste pour faire joli dans les défilés. Hein. Les 5 sous-marins qu'on a vendus au Pakistan, ils sont pas là pour étudier la reproduction des poulpes dans l'océan Indien.
Ah
c'est
bon
pas leur priorité. Ah non, alors que c'est fascinant, Apolline. Fascinant.
Le poulpe dominant pointe de manière ityphalique son ectocolite qui sert d'organe copulateur afin d'introduire les gamètes dans la femelle poule. J'arrête, hein, je vois bien que j'excite tout le monde.
L'eurodéputée Marion Maréchal a déclaré qu'elle ne croyait pas que son grand-père, Jean-Marie Le Pen, était antisémite.
Oui, elle a dit « Est-ce que les condamnations sondent le cœur des hommes ? Je ne crois pas. » Heureusement qu'elle n'est pas avocate. Hein. Monsieur le juge, est-ce que les condamnations de mon client, Francis Holm, sonde réellement son cœur, qui n'est que fragilité et sensibilité, n'est-ce pas, Francis ?
Marion, est-ce que tu buzzes ?
Alors, Jean-Marie Le Pen avait une maison de disques qui éditait des chants nazis et disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Mais vous connaissez les gens, Apolline, ils voient le mal partout. Voilà. Si ça se trouve, Jean-Marie Le Pen rêvait secrètement d'être investi par LFI aux élections. Mais après, on n'est jamais vraiment objectif quand ça concerne sa famille. Louis Sarkozy pense que son père est innocent. Jésus pensait que sa mère était vierge. Éric Ciotti, son père Jean-Claude Duss, il pensait qu'il allait conclure. On se fait avoir tout le temps.
Allez, dans un instant, la météo, le journal sur RMC, RMC Story. Et puis, les pompiers sont en grève aujourd'hui. On refuse d'être des héros qu'on laisse sans moyens. Le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours, est notre invité dans un instant. La colère des sapeurs-pompiers, leur ras-le-bol, leur souffrance également. C'est dans un instant sur RMC et sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouiz. Clément, ça chauffe dans les bus de la RATP en Ile-de-France.
1 sur 2 n'est pas climatisé selon Force Ouvrière et les chauffeurs et passagers au bord du malaise. Le Pas-de-Calais à son tour frappé par les incendies, près de 200 hectares brûlés sur le littoral et 200 campeurs évacués. RMC est allé à leur rencontre. Et un nouveau prodige français dans les bassins, le nageur sauveur Cristofini, aligné ce matin sur les séries du 200 mètres au championnat d'Europe.
Une nouvelle journée caniculaire.
La quasi-totalité de la France est en vigilance orange et demain sera également le cas, comme nous l'a annoncé en début de ce journal Charlène Villemer. Il fait déjà 24 degrés à Rennes, Toulouse, 25 degrés à Paris, où près de la moitié des bus de la RATP sont devenus de véritables fournaises privées de climatisation, selon FO. Les chauffeurs et usagers suffoquent, comme vous avez pu le constater, Célestin Bougère, dans le Val-de-Marne.
Je monte dans le bus 180, direction Charenton. Il fait déjà 35 degrés à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est encore pire.
Si à l'extérieur, il fait 35, donc à l'intérieur, on doit avoisiner les 40-45 degrés.
Derrière le volant, Bruno sue à grosses gouttes. Le soleil tape sur son tableau de bord.
Quand on roule, sous des chaleurs pareilles, c'est intenable. J'ai la cinquantaine et j'accuse de la fatigue. S'il y a un peu de fatigue, il peut aussi avoir un peu de manque de concentration sur la conduite.
Ça peut même devenir dangereux.
On peut représenter un danger pour les passagers.
Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
On a des serviettes rafraîchissantes. On a des gourdes d'eau, mais moi, c'est mon avis personnel, c'est de mettre la climatisation dans les bus.
À l'arrière, je m'installe à côté de Fatima, une retraitée. On voit justement essayer de faire de l'air.
Oui, pour moi et pour mon petit chien.
Il est seul, pauvre.
Moi, je suis âgée, hein. Bien sûr, c'est dangereux.
Derrière nous, Marie, une étudiante en médecine, a sorti son petit ventilateur portatif.
Ah bah, il vient de tomber en panne.
Quand c'est bondé, quand il n'y a pas la clim, c'est vraiment insupportable.
En arrivant au terminus, Bruno, le conducteur, se précipite dans la salle de repos.
Je suis obligé d'aller boire minimum 2 ou 3 verres d'eau.
Les chauffeurs réclament également la fin des 6 jours de travail de suite pendant ces périodes de canicule. Île-de-France Mobilité assure que tous les bus seront équipés en climatisation d'ici 2030.
On respire mal en Île-de-France. Pollution à l'ozone en raison des fortes chaleurs. La préfecture abaisse aujourd'hui la vitesse de 20 km/h.
Et décidément, cet été, le feu n'épargne aucun département.
C'est le littoral du Pas-de-Calais qui s'embrase depuis hier. 180 hectares parcourus par les flammes et 1200 campeurs évacués. Une évacuation en urgence qui a forcément, Caroline Renaud, marqué les esprits.
Sa caravane à peine installée, les vacances ont démarré par une grosse frayeur pour Aurélia.
Il y avait une forte odeur de cramé, énormément de fumée. Les cendres tombaient au niveau de notre campement. On se dit, ça tombe, c'est peut-être pas une cendre, ça peut être une braise.
De quoi faire paniquer ses enfants.
La plus grande commençait à pleurer. Maman, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer ? On avait peur que du coup, ça se rapproche de plus en plus de nous, en fait.
Alors, elle n'a pas attendu l'ordre d'évacuation pour plier bagages, comme Jérôme, dès les premières fumées.
J'ai attelé ma caravane, puis on est parti, quoi.
parti en urgence d'une région qu'il pensait pourtant épargnée par les incendies.
J'aurais pas cru que ça serait arrivé là-bas, quoi. Dans le Nord, pour moi, j'ai jamais connu ça. C'est à côté du Touquet, on dit qu'il n'y a pas de risque, quoi.
Même étonnement pour Coralie, venue passer 2 jours à la mer.
On entend ça aux infos et c'est plus, tout ce qui est en Gironde, etc. Enfin, on se dit la mer du Nord, normalement, c'est pas la région là où il y a le plus de sécheresse et où il fait le plus chaud, quoi.
Tente démontée cette nuit, elle ne finira pas son séjour au camping malgré la levée de l'évacuation. Mes enfants ne seraient pas sereins, dit-elle.
Et ça brûle également en Ille-et-Vilaine, près de Rennes, plus de 200 hectares brûlés et 100 de personnes évacuées, annonce la préfecture. Ras-le-bol chez les pompiers. Une grève aujourd'hui pour alerter sur les mauvaises conditions de travail. Justement, une réunion est prévue ce midi avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes.
RMC, il est 8h33, si je ne me trompe pas, le protoxyde d'azote, le gaz hilarant, autrement dit, a fait une victime à Marseille.
Un adolescent de 17 ans qui avait été hospitalisé après avoir déclaré avoir consommé du protoxyde d'azote, gaz consommé par les jeunes à des fins récréatives, a été retrouvé mort à son domicile au lendemain de sa sortie de l'hôpital Lougarnier.
Oui, il a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire chez lui à la Castellane, une cité située dans les quartiers nord de Marseille. À la fin du week-end, il avait été pris en charge aux urgences après avoir consommé une quantité importante de protoxyde d'azote, gaz parfois utilisé comme drogue euphorisante avec de graves conséquences pour la santé. L'adolescent est sorti de l'hôpital lundi. Il semblait aller bien, rapporte une source policière. Quelques heures plus tard, le jeune homme de 17 ans décède. Pour le moment, il n'y a pas de corrélation définitive entre sa consommation de gaz hilarant et son décès, selon les autorités. Une autopsie a été demandée et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort, précise le parquet de Marseille.
2 morts et 41 cas de légionellose en Savoie. L'alerte sanitaire est prise au sérieux, notamment autour de Chambéry. L'origine des contaminations reste inconnue. Des analyses sont en cours pour tenter d'identifier la source.
C'est un nageur français à suivre. Il s'appelle Sauveur Cristofini et ce sera à suivre ce matin.
Il est aligné sur les séries du 200 mètres nage libre au championnat d'Europe. Le nageur français de 17 ans est annoncé comme un nouveau phénomène, Julien Richard.
3,47-57.
Oh, la bosse. Oui, et même Léon Marchand est bluffé.
Un nageur qui est hyper impressionnant. Franchement, ce qu'il fait à l'entraînement, c'est, je pense pas qu'il ait vraiment vu ça autre part. C'est vraiment cool de voir ça. Il est très sérieux, très rigoureux. Il est encore très jeune, donc il a énormément de marge de progression.
Lundi, avec le relais 4 x 200 mètres nage libre en argent lancé par Léon Marchand, Sauveur Cristofini est devenu à 16 ans le plus jeune français médaillé dans un championnat d'Europe.
Ah, bah, c'est cool, je savais pas.
Pas de quoi perturber l'introverti marseillais qui culmine déjà à 1,90 m.
Non, pas trop, parce que je reste un peu dans ma bulle. Enfin, ça va, je pense que je gère assez bien la pression. Concentré, ce qui m'inspire, c'est plutôt la gaine.
C'est avec Philippe Lucas, l'ancien mentor de Laure Manaudou, qu'il a éclos. Et depuis 3 mois, il s'entraîne à Marseille.
C'est un nageur qui va devenir, à mon avis, très très fort.
Avec Franck Esposito.
Il y a des exceptions comme ça dans la natation. Ben, c'est un plaisir des yeux. Hein. Un garçon attachant, très bien élevé par papa-maman. Sauveur, il est dans son monde. Il vit sa natation, mais c'est aussi un nageur exceptionnel.
À Saint-Denis, Sauveur Cristofini pourrait passer un premier cap sur la route des Jeux de Los Angeles.
On suivra également aujourd'hui Maxime Grousset sur la finale du 100 mètres papillon. C'est à 18h30. Les championnats d'Europe de natation, c'est à suivre sur RMC, antenne spéciale de 18h à 20h en direct du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. Un nouveau trophée pour le PSG, la Super Coupe d'Europe, 2e année consécutive que les Parisiens soulèvent ce trophée. Ils se sont imposés hier 2-1 face à Aston Villa.
Et puis les courses, Clément, les courses RMC, c'est à l'hippodrome de Deauville. Ce sera en nocturne à 20h15.
Le pronostic de Frédéric Kita, son favori le 2, Rêve Bleu, son outsider le 3, Think for the Hot.
Merci beaucoup Clément, le prochain journal ce sera à 9h, RMC 8h36, des messages Victor Porcher sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424,
et notamment en réaction à cette grève des pompiers aujourd'hui. On a Maryse d'abord qui nous envoie son point de vue de maire de pompiers de Paris appelé en Gironde et qui nous dit que son fils lui a dit que la grève finalement pouvait attendre, que c'est pas forcément le bon moment. C'est ce que nous avait dit aussi Julien, en nous disant que c'était un moment sensible. Eh bien, on a une réponse à ça aussi dans les messages sur le WhatsApp RMC. On a Brice qui dit oui, mais s'ils font grève à des moments où ça ne marque pas dans l'actualité, ils ne seront malheureusement pas entendus. On a aussi Christian qui nous dit, eh bien, ils ont bien raison, ces pompiers, de se faire entendre, sachant qu'en plus, dans la majorité, ils sont volontaires. volontaires et ils ont montré, nous dit Christian, que les moyens manquaient alors qu'ils ont tout fait pour sauver des vies et des maisons. On leur doit beaucoup et ce métier devrait être entièrement professionnalisé. C'est ce que nous dit Christian sur le WhatsApp RMC.
Et je rappelle que le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours, de syndicat de sapeurs-pompiers, sera avec nous à 8h45. Il est déjà avec nous en studio et on va donc pouvoir parler longuement de cette colère, de ce ras-le-bol des sapeurs-pompiers. Dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Comment faire garder son animal de compagnie pendant les vacances? C'est souvent le casse-tête de l'été, ça coûte cher. C'est tout de suite sur RMC et sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, il est 8h39. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire du chien? Bah oui, bah je veux bien partir, mais qu'est-ce qu'on va faire du chat? Vous avez peut-être déjà été confronté à ce petit casse-tête, surtout à l'approche de l'été. Comment faire garder son animal de compagnie durant les vacances? Plus de la moitié des Français auraient un animal de compagnie. Alors comment faire? L'emmener avec soi ou trouver quelqu'un pour s'en occuper durant son absence? Heureusement, les solutions ne manquent pas. Chenille, chatterie, pet-sitting, à l'image d'un babysitter pour animaux. Mais ces modes de garde peuvent rapidement faire grimper la facture, Léonie Guibaud.
La litière, les croquettes, la fontaine à eau, des petits griffoirs, histoire qu'elle se défoule un peu.
À quelques jours de son départ en vacances, il a acheté tout le nécessaire pour sa chatte Roquette qu'il confie à sa sœur.
C'est de l'organisation, prévoir le stock suffisamment pour que déjà la personne, elle, ne subisse pas les frais. Donc c'est pas son animal, c'est bien.
Un vrai casse-tête aussi pour Serge. Il n'a trouvé personne pour garder ses deux chiens. Seule option, le chenil. Et il s'y est pris 3 mois à l'avance pour avoir le choix.
On préfère privilégier quand même un endroit où il y a beaucoup d'espaces verts avec des très très bons commentaires. Voilà. Puis on se fie aussi à la personne au téléphone, ou si on sent pas la personne, on va pas forcément les laisser.
Il a donc opté pour la Normandie, quitte à faire plusieurs heures de route avant et après les vacances pour aller récupérer ses deux compagnons. Son chihuahua serré contre lui, il le répète, il veut le meilleur traitement pour ses deux chiens et ne regarde pas à la dépense.
Par chien, c'est dans les 1500. Pour les deux, ça peut aller à 3000 sur un mois. Parfois, il y a des formules avec des cages plus grandes. Il y a plein d'options au niveau de la nourriture, tout.
Delphine, elle aussi a déjà laissé son animal en pension pour une 15aine d'euros par jour.
Bah, c'est sûr que c'est un peu plus cher, mais bon, au moins quand on est tout seul et qu'on n'a pas le choix, c'est mieux. Et puis ils nous envoient des petites photos aussi pour nous dire « Ah, aujourd'hui ils ont fait ça, ils sont contents ».
Mais pour elle, c'est toujours un stress de laisser son animal à un inconnu.
C'est laisser un membre de sa famille. Je me sens mal de partir sans elle, mais bon, je peux pas partir avec.
David, lui, préfère ne jamais confier sa border collie de 6 ans à qui que ce soit.
Manque de confiance aussi dans les doxiteurs. J'habite à côté du bois de Boulogne et je les vois, ils sont souvent des hordes de chiens, 6-7, et je trouve pas qu'ils font très attention justement à chacun des animaux. Donc, on la garde avec nous. Personne ne l'a.
Rien d'étonnant pour Chrisland Bélivier, éducateur canin. 20% de sa clientèle vient le consulter après des mauvaises expériences en chenil.
Pas mal de chiens qui régressent en termes de malpropreté parce que le chien était exposé à trop de chiens, trop de stress.
Et pour éviter ces mauvaises surprises,
le mieux c'est de pouvoir aller sur place, observer tout simplement la qualité du matériel, des locaux, voir si les box sont propres. Est-ce qu'il mélange tous les chiens ou alors est-ce qu'il sépare en fonction des gabarits? Quel est le temps de sortie et de socialisation des chiens?
Dernier conseil, ne pas hésiter à faire un test sur une journée ou un week-end avant de laisser votre animal pour toutes les vacances.
RMC, 8h42. Ils sont en grève aujourd'hui, en plein cœur de l'été. Les 9 syndicats de sapeurs-pompiers dénoncent le délitement de la sécurité civile et refusent que le mot héros masque le manque de moyens. Bonjour, lieutenant-colonel Alain Larata. Vous êtes le secrétaire général d'Avenir Secours.
Bonjour, Rémi.
Merci d'être avec nous. Vous serez reçu à midi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Mais vous passez d'abord par le studio d'RMC. Merci encore d'être là. Qu'allez-vous demander au ministre? Vous nous répondez dans un instant sur RMC et RMC Story. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h46. Les pompiers sont en grève aujourd'hui. Appel à une grève nationale lancée par leurs neuf organisations syndicales. Après un été noir, près de 120 000 hectares brûlés depuis janvier, 4 pompiers morts et au moins 129 intoxiqués. Ils dénoncent le délitement de la sécurité civile et refusent que le mot héros serve à masquer le manque de moyens. Le lieutenant-colonel Alain Larata, secrétaire général du syndicat Avenir Secours, est avec nous. Alain Larata, avant tout, je voudrais vous faire écouter ce que disait mardi sur RMC et RMC Story, Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, sa réponse sur le manque de moyens que vous dénoncez. On l'écoute.
Dans notre pays, il y a aussi beaucoup de moyens qui ont été mis sur la table ces dernières années. On a purement et simplement doublé le nombre d'engins aériens à disposition des pompiers. Il y a 500 nouveaux engins qui ont été livrés, donc beaucoup de camions neufs. On a la chance d'avoir dans notre pays des conditions exceptionnelles de sécurité civile parce qu'on a mis beaucoup de moyens sur la table.
Bon, quand on entend ça, lieutenant-colonel, on se demande pourquoi vous appelez à la grève aujourd'hui ?
On appelle à la grève pour justement aller contrer ce genre d'affirmation. Vous savez, cette méthode Coué qu'on entend continuellement depuis le début de l'été. Vous avez dit on est à la fin de l'été. Non, on est au milieu du gué. Tout n'est pas terminé. Donc on entend ce genre de discours, comme on a pu entendre l'intervention du président du conseil départemental de Mayenne il y a quelques jours. Méthode Coué, tout va bien, on a assez de tout. C'est vraiment démontrer qu'il y a une déconnexion entre le monde politique et la réalité opérationnelle.
Est-ce que c'est une déconnexion ou un mépris ?
Je crois que pour le premier, c'est une déconnexion. Il vient d'arriver, il est sur un territoire où je ne crois pas qu'il y ait des feux de forêt. Il est en poste depuis le mois d'avril, je crois. On ne l'a jamais rencontré.
Mais là, je parle du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.
Oui, bah écoutez, on le découvre. On n'a jamais eu affaire à lui. Et habituellement, le ministre délégué a plutôt en charge la sécurité civile. Je ne crois pas qu'on ait eu à le rencontrer, en tout cas. Mais vous savez, cette forme de déconnexion, c'est ce qui crée aujourd'hui la colère. Parce que on pourrait être en colère aujourd'hui parce que des promesses n'auraient pas été tenues. On n'en est même pas au stade de la promesse. On en est au stade d'un déni depuis des années. Où vous savez, les engagements, les belles paroles qu'on entend en fin d'année dans nos cérémonies de commémoration de Sainte-Barbe ou lors des hommages rendus aux sapeurs-pompiers morts en service commandé. Je veux dire, tous ces événements-là, ça craint la pluie. Et dès qu'on ne pense plus aux feux de forêt, ben on ne pense plus aux pompiers. Alors que nous, notre message, il est d'abord de dire que la problématique, elle est du 1er janvier au 31 décembre. L'intersyndicale, c'est depuis le mois d'avril. On n'a pas attendu les feux en Gironde.
J'y reviens, encore une fois, j'insiste. Est-ce que vous vous sentez actuellement méprisé par le gouvernement?
Écoutez, nous, on a fait un job, me semble-t-il, d'organisation syndicale responsable. On a fait une grève pour contraindre le ministre de l'Intérieur de nous recevoir. Je ne crois pas dans son agenda, c'était prévu que le 13 août, il nous rencontre. Il le fait, c'est le code du travail, et je crois peut-être un peu de conscience de sa part. On le verra, on l'entendra d'ici quelques minutes.
Mais concrètement, vous allez lui demander quoi?
On va lui rappeler une nouvelle fois qu'on est dans une passe historique où 100% des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés, ne les oublions pas. Quand les pompiers sont au feu, c'est parce qu'il y a aussi des équipes soutien et des services qui sont là pour consolider nos actions sur le terrain. On va lui dire qu'il a une nouvelle fois la possibilité de faire voter une loi qui va pouvoir modifier un petit peu notre champ missionnel. Je vous disais que c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre. On a 80% de nos missions, c'est du secours d'urgence aux personnes. On traite aujourd'hui le pré-hospitalier, Rémi. C'est pas notre job. Nous, c'est l'urgence. C'est pas amener Madame Michu à l'hôpital parce qu'il y a personne, ni de sa famille, ni des services de transport privé qui sont disponibles pour le faire. Il y a tout un tas de missions parasites qu'il faut éliminer. Ça grève les budgets des services d'incendie et de secours. Ça ne nous permet plus de faire des recrutements. Ça ne permet même pas d'assurer la protection respiratoire de nos sapeurs-pompiers. Je vais revenir, si vous me permettez, sur la déclaration du ministre. Très intéressant. Qu'il regarde sur les statistiques et en tout cas que ses services lui préparent. En 20 ans, on a perdu 1000 camions. En 20 ans, on a perdu 1000 camions citernes feux de forêt. Le pacte capacitaire de l'État, c'est 150 millions sur 3 ans. On pourrait dire c'est énorme. Il y a 102 services d'incendie et de secours. Un camion, ça vaut entre 350 000 et 450 000 euros. Et quand on a mis un camion neuf, on en a mis deux à la poubelle parce qu'ils étaient pourris depuis des années. Donc moi, je veux bien le discours angélique ou de toujours considérer la méthode Coué, tout va bien, il va pas nous dire que c'est le bazar, il vient d'arriver.
Ouais.
Mais en attendant... Mais
ça va même plus loin que ça, parce que la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dit que dire que les moyens n'ont pas augmenté depuis 2017, c'est ce qu'elle dit, c'est un mensonge éhonté.
Éhonté, bah écoutez, je lui renvoie ce compliment, puisque elle parle peut-être en brut, en net, la réalité c'est que quand un service d'incendie et de secours a acheté un camion neuf avec une participation de l'État, il faut pas le négliger, eh bien c'est un à deux, voire trois camions qui sont passés au rebut parce qu'ils n'étaient plus à la norme, ils n'assuraient plus la sécurité. Nous fêtons le 10e anniversaire d'un drame absolument abject qui a eu lieu dans le département de l'Hérault où un collègue a perdu la vie et des collègues ont été très gravement brûlés. C'est le feu de Gabian. Vous savez, on a mis au pilori et on a condamné uniquement le directeur départemental à 2 ans de prison. Les autres acteurs de la sécurité civile dans le département n'ont absolument pas été inquiétés. Donc aujourd'hui, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on prend les nôtres. Tous les jours, on agit, que les politiques prennent leurs responsabilités, enfin.
Je le rappelle, les sapeurs-pompiers sont des personnels essentiels. Aujourd'hui, vous appelez à la grève, mais forcément, vu les circonstances, les pompiers seront sur le terrain pour défendre les populations et les biens. C'est le cas notamment en ce moment dans le Pas-de-Calais, du côté de Sainte-Cécile, d'Ardelot, de Danne. Mais j'imagine qu'on le sent, la colère, elle est là. Si on ne vous répond pas positivement aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, est-ce que, une fois l'été passé, vous appellerez à nouveau à des mobilisations ?
Bah écoutez, aujourd'hui, c'est peut-être une phase où on va recueillir des engagements. Le ministre de l'Intérieur a une opportunité. On croit savoir qu'il a quelques annonces à nous faire. N'insultons pas l'avenir. Si ces engagements ne sont pas tenus, dès les premiers jours de septembre, nous prendrons là aussi nos responsabilités. On sait très bien que les engagements et les promesses, lorsqu'il y en a, elles craignent la pluie, comme on dit chez les sapeurs-pompiers. Donc on verra. On a effectivement d'autres actions en préparation. On va maintenir la pression, parce que la pression opérationnelle est toujours là. Nous aussi, on va maintenir notre pression.
Vous pensez que quels engagements peut prendre là le ministre ? Vous avez déjà des informations là-dessus ou pas ?
Que le projet de loi Beauvau, qui est quand même issu de 18 mois de réflexion, on a refait la sécurité civile pendant 18 mois. Tout est sur la table, des missions flash, des rapports parlementaires, des audits, tout est sur sa table pour construire une loi de modernisation de sécurité civile dès l'automne. Charge aux sénateurs et aux députés de s'emparer de ce texte, de le voter. Et puis il y a un deuxième texte, c'est le projet de loi de finances. C'est là où il faudra aussi mettre les moyens, parce que si on n'a pas plus de moyens, on aura toujours autant de colère.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel Alain Larata, d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat de sapeurs-pompiers Avenir Secours. Merci. Dans un instant, les GG en direct sur RMC, RMC Story, 9h midi. Bonjour Alain Marchal.
Bonjour à tous. Dans un instant, donc, les grandes gueules avec la coach de vie Joël Dagosséry, l'avocate Sandrine Pégan, et puis nous serons avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. On reviendra sur ce qui s'est passé à la fois à Toulouse et à Épinal. Vous savez, Toulouse, c'est l'attaque au couteau contre les policiers municipaux. Et à Épinal, il y avait un type avec un couteau de boucher de 25 cm qui était en plein milieu de la rue, comme ça, à se balader, à regarder un peu les passants. Et hier, j'ai échangé avec un ami, il ressort, il me dit, je te jure, ça me fout la trouille. Vraiment. Et il me dit, qu'est-ce que je mets dans ma poche et qu'est-ce que je mets dans mon sac ? Alors, est-ce que ça vous fout la trouille ? Est-ce que ça vous fait réfléchir ? On en parlera, bien sûr, avec vous au 32-16. On reviendra sur ce que dit François Bayrou. Pour lui, un deuxième tour Rassemblement National France Insoumise, c'est le chaos et la division en France. Est-ce qu'il a raison ? On reparlera de la colère des pompiers. On leur ouvrira le 32-16, bien sûr. Et puis, on s'intéressera à l'affaire Epstein avec 2 plaintes pour déni de justice contre la justice française. Est-ce qu'on cherche à freiner les enquêtes sur l'affaire Epstein en France ? C'est au 32-16.
Merci beaucoup Alain, les grandes gueules tout de suite sur RMC, RMC Story, et nous on se retrouve demain dès 7h, à demain.